Il est 18h30. Je vous propose de démarrer nos travaux. J'ai reçu un certain nombre de pouvoirs. Benoît Moitier m'a confié son pouvoir. Annie Loyau, qui est souffrante en ce moment, est représentée par Pierre Marandon. Damien Godier sera représenté par Daniel Maire. Rémi Grand arrivera en retard et sera, jusqu'à son arrivée, représenté par Marie-Claire Bilbor. Claude Maréchal sera représenté par Jacques Fromm. Il est, je crois, pas arrivé, mais il devra surtout nous quitter, je crois, un peu avant la fin de la séance. Voilà qui arrive, la séance. Hélène Devilliers sera représentée par Jonathan Rodriguez. Astrid Tussaud, représentée par Édouard Abon. Et Hélène Perrin sera représentée par William Richard jusqu'à son arrivée. Pas d'autres pouvoirs. Bien, je vous propose de commencer notre séance comme d'habitude par la nomination d'un secrétaire de séance. L'usage veut que le plus jeune membre de l'Assemblée remplisse cette fonction. Ce soir, le plus jeune membre de l'Assemblée, c'est Édouard Abon. Donc, je vous propose sa candidature comme secrétaire de séance. Pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. Je voulais, avant de commencer le conseil municipal, vous informer de ma décision de nommer Delphine Nou au poste de directrice générale des services de notre collectivité. Delphine Nou est juste derrière moi. Vous la connaissez pour certains d'entre vous, puisqu'elle était jusqu'ici directrice du CCAS et assurait l'intérim administratif depuis le départ d'Éric Le Floch, qui était intervenu de mémoire en juin dernier. Son autorité, son sens du service public et ses qualités personnelles m'ont convaincu qu'elle pouvait être, dans le contexte actuel, une directrice à la fois à l'écoute des services municipaux et capable, dans le même temps, de poursuivre les nécessaires évolutions engagées au niveau de notre organisation. Il va de soi qu'elle sera remplacée dans le poste, dans les fonctions de directrice du CCAS le plus rapidement possible. Donc je tenais à vous apporter cette information et évidemment je lui adresse toutes mes félicitations et tous mes encouragements pour cette nouvelle mission. Nous en arrivons, mes chers collègues, à l'examen du budget primitif 2016 de la ville d'Épernay et des budgets annexes. Je vous rappelle que le budget constitue l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et dépenses annuelles de la commune. C'est le point essentiel de ce conseil municipal, puisque nous avions eu l'occasion il y a quelques semaines d'évoquer toute une série de points annexes. Ça va nous permettre du coup de consacrer un peu de temps à l'examen de ce budget. Il y a quelques semaines, en décembre, notre débat d'orientation budgétaire avait permis de mesurer les contraintes qui ont pesé sur l'élaboration du budget de notre collectivité, soumis donc à votre appréciation ce soir. Parmi ces contraintes, la principale demeure la poursuite du désengagement de l'État, qui prend la forme maintenant malheureusement bien connue d'une diminution drastique des dotations que l'État verse aux collectivités, diminution qui est appelée malheureusement à se poursuivre en 2017. Cette année, pour ce qui concerne ces dotations, essentiellement la DGF mais également quelques dotations de compensation, la ville d'Épernay va se voir privée de 1 100 000 euros, soit une baisse de 12%. Cette perte se rajoute à une réduction du même ordre l'an dernier et d'un peu plus de 500 000 euros en 2014. Décidée par le gouvernement actuel, ces retenues sont une façon pour l'État de faire les poches aux collectivités. Il s'agit ainsi pour lui de tenter de faire face aux conséquences d'un déficit public dont il est responsable pour l'essentiel et qui ne cesse de croître au fil des ans. La précédente majorité parlementaire avait aussi mis à contribution les collectivités par le gel de l'enveloppe des dotations, c'est-à-dire par leur diminution sous l'effet de l'inflation. Autant dire que si les responsabilités d'aujourd'hui sont plutôt à gauche, les gouvernants précédents ne sont pas exempts de reproches, je le dis avant que vous le disiez, messieurs. Mais je le pense en plus, hein, je ne dis pas ça. Je ne dis pas ça pour vous faire plaisir, je le dis parce que je pense qu'effectivement, il y a entre l'État et les collectivités, un fossé qui est en train de se créer et qui ne tient pas spécialement à la gauche ou à la droite, qui tient au fait qu'il y a une contradiction de plus en plus flagrante entre la qualité de la gestion des collectivités locales en général, quelle que soit d'ailleurs la couleur politique des élus. Vous savez comme moi que les collectivités territoriales sont tenues à l'équilibre. Elles ont absolument interdiction de s'endetter pour couvrir des dépenses de fonctionnement, alors que l'État français, depuis quarantaine d'années s'est laissé aller au fil du temps, au point aujourd'hui d'accumuler des déficits et des dettes considérables que nous allons indirectement devoir rembourser. La situation que nous connaissons aujourd'hui est d'une ampleur sans précédent. Je rappelle qu'effectivement, l'effort qui est demandé aux collectivités est disproportionné par rapport au poids de la dette des collectivités dans le déficit public de notre pays, qui n'est que de 8%. À Épernay, la contraction des dotations représente depuis 2008 en une perte cumulée de recettes de plus de 9 millions d'euros pour notre seule commune. Et même si pour l'heure le gouvernement a reculé sur le sujet ô combien sensible de la réforme de la dotation globale de fonctionnement qui était initialement prévue pour 2016, la réforme telle qu'elle se dessine devrait, à mon sens, et je ne suis malheureusement pas le seul à le penser, aggraver la situation pour nos collectivités. Par ailleurs, en matière de dépenses obligatoires, nous subissons à nouveau l'augmentation de notre contribution au FPIC, le Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales, qui atteint cette année, le montant de 1 230 000 euros, et ce montant sera de 1 410 000 euros l'année prochaine. Donc, on assiste cette année encore à ce fameux effet de ciseau qui veut que d'un côté, nos recettes de fonctionnement et notamment les recettes de dotation diminuent constamment depuis maintenant 3 années consécutives et bientôt 4 années consécutives. Et dans le même temps, ce fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales, lui, ne cesse d'augmenter. Donc nos charges ne cessent d'augmenter à ce titre-là. Donc évidemment, tout cela entraîne une perte importante. Et si on ajoute à la perte des dotations de l'État la progression du FPIC, c'est une somme de 1 400 000 euros qui nous manquera en 2016 par rapport à 2015, ce qui est l'équivalent du produit de 7 points d'impôt. Malgré ces contraintes qui s'alourdissent, nous sommes parvenus à maintenir la stabilité des taux municipaux de fiscalité et je dois dire que la facilité aurait été sans doute d'augmenter la pression fiscale en agissant sur les taux, ce que nous n'avons pas voulu faire, compte tenu du fait que d'abord, nous avons fait en sorte depuis un certain nombre d'années, depuis plus de 11 ans aujourd'hui, à faire en sorte que les impôts n'augmentent pas à Épernay. Ils ont même, je le rappelle, baissé en 2007 et en 2008, compte tenu également du fait que, par les temps qui courent, compte tenu des difficultés de nos concitoyens en termes de pouvoir d'achat, il nous a semblé qu'une augmentation des prélèvements obligatoires devait absolument être évité au niveau local, sachant que ces mêmes prélèvements obligatoires ont augmenté de 40% en France ces dernières années. Puisque nous n'avons pas utilisé le levier fiscal, nous avons donc poursuivi la baisse de nos dépenses de fonctionnement, et je dois dire que c'est très certainement l'objectif recherché par le gouvernement, par l'État d'une manière générale, qui impose aux collectivités de diminuer leurs dépenses, c'est-à-dire très clairement de limiter leurs moyens d'intervention. Ce qui, évidemment, n'est pas sans conséquence. Je considère aujourd'hui, et je pense que ce point de vue est partagé par de très nombreux élus, quelle que soit leur sensibilité, qu'on assiste à une sorte de recul de la décentralisation et du principe de libre administration des collectivités, puisque les collectivités qui disposaient avant d'un pouvoir fiscal important ont vu ce pouvoir fiscal s'éroder au fil du temps. Les régions, par exemple, n'ont pour ainsi dire plus de pouvoir fiscal, les départements en ont de moins en moins, et les collectivités qui dépendent encore fortement des dotations de l'État, voient ces dotations diminuer comme une peau de chagrin. Et quelque part, on arrive à une situation qui nous conduit à un recul de la décentralisation. Alors, encore une fois, je ne veux pas insister sur les responsabilités de ce gouvernement. Elles sont importantes. Je pense qu'il y a une vraie difficulté entre les gouvernants au niveau national et les collectivités locales aujourd'hui, et que sauf évolution contraire, ou en tout cas stabilisation rapide, on risque de voir demain le rôle et l'influence des collectivités locales diminuer par le fait qu'elles n'auront plus les moyens d'agir, alors qu'il a été démontré que la réforme de la décentralisation, voulue par la gauche en 82-84 à l'époque, combattue à tort par la droite à l'époque, puisque cette réforme s'est avérée judicieuse, et je crois qu'aujourd'hui plus personne ne remet en question les acquis de la décentralisation, est en train d'être remise en question par une attitude strictement financière, c'est-à-dire qu'en clair, on a donné des pouvoirs aux collectivités, mais on est en train de les priver des moyens leur permettant d'agir efficacement dans les domaines pour lesquels elles ont été elles se sont vues confier des responsabilités importantes. En 2016, nos dépenses réelles de fonctionnement hors charges exceptionnelles et FPIC représentent 35 800 000 euros, soit une diminution de 3,49% par rapport à l'année dernière. Je n'ai pas souvenir, en ce qui me concerne depuis au moins une vingtaine d'années, d'avoir vu les dépenses réelles de fonctionnement diminuer dans cette proportion-là. C'est vous dire que le régime strict auquel nous sommes astreints nous contraint, mais je pense pouvoir dire que dans la plupart des collectivités, en tout cas toutes celles que j'ai pu fréquenter ou dont j'ai pu parler ces derniers temps avec leurs élus respectifs, effectivement, il y a une contraction très forte des budgets des collectivités locales qui est sans précédent, c'est-à-dire au moins depuis une trentaine d'années. En matière de fonctionnement, notre niveau de dépenses est identique à celui du budget primitif 2007, c'est vous dire la baisse qui a déjà été effectuée dans nos budgets. Dans toute collectivité, comme vous le savez, le premier poste budgétaire est celui du personnel. Sachez qu'à Épernay, le budget du personnel va diminuer de 6,8%, soit 1,3 million. Cette évolution, elle s'explique par l'externalisation de certaines tâches confiées jusqu'alors à des agents municipaux. Je pense à la production de repas ou à l'entretien de certains locaux. Contribue également à cette baisse le non-remplacement systématique des agents partant en retraite ou quittant la collectivité. Et chaque année, depuis plusieurs années maintenant, nous profitons de certains départs en retraite pour contracter notre effectif parce que c'est le seul moyen de faire face à la diminution de nos recettes. Entre également en ligne de compte de façon plus spécifique cette année, le transfert des agents des services communs à la communauté de communes d'Épernay, même si ce transfert a un impact financier limité pour la ville, puisque la ville continue en effet de contribuer à la rémunération de ses agents sous forme d'une dépense de gestion intégrant les frais de fonctionnement des services communs et non plus sous la forme d'une dépense de la commune pour son personnel. Donc on va voir effectivement le poste personnel diminuer, mais les dépenses de gestion, elles, reprennent une partie des sommes diminuées du poste du personnel. Par ailleurs, nous avons poursuivi les efforts en matière de désendettement entamés dès 2002. Notre dette globale, c'est-à-dire le budget ville et budget annexe, a encore diminué entre le budget primitif 2015 et le budget que nous examinons aujourd'hui. Elle est ainsi de 34,07 millions d'euros, soit le montant le plus faible depuis 14 ans. Depuis 2002, notre encours a été réduit de 13 870 000 euros, ce qui représente une baisse de 29%. En 2016, comme indiqué lors du débat d'orientation budgétaire, nous maintiendrons stable notre encours de dette. Cet encours de dette est parfaitement sécurisé, puisque selon le classement Gisler qui cote la dette des collectivités, nous sommes classés 1A pour 94% du montant de notre dette, soit le meilleur classement possible, et 1B pour les 6% récents, c'est-à-dire le degré ou l'échelle juste en dessous. Le suivi quotidien de notre dette nous permet de bénéficier des opportunités des marchés financiers. Nous avons ainsi renégocié avantageusement un emprunt fin 2015. La répartition de notre encours entre taux variable et taux fixe participe également de cette gestion active de notre dette. Et cette année, le taux moyen de la dette sera de 2,11% pour 2,32% en 2015, donc une amélioration. Ainsi, en 2016, les frais financiers de notre collectivité diminueront encore de 15% pour atteindre le montant de 660 000 euros. Il représentait, pour votre information, en 2002, 2 430 000 euros. Donc, voyez bien la différence. On est passé de 2 430 000 euros à 660 000 euros, ce qui signifie que ces intérêts de la dette ont baissé de 73% depuis 14 ans. Comme je l'ai indiqué lors du débat d'orientation budgétaire et rappelé à l'occasion des vœux au corps constitué, il va être demandé à chacun des efforts aux associations locales, aux services municipaux qui les ont déjà en partie produits et à toutes celles et ceux qui, avec lesquels nous sommes amenés à travailler. Sur le budget ville, le montant global des subventions hors valorisation sera ramené de 2,6 millions l'an dernier à 2,5 millions en 2016. En intégrant les subventions qui seront versées par le CCAS, le montant global des aides apportées aux associations par la collectivité atteindra la somme de 2 730 000 euros en 2016 pour 2 970 000 euros en 2015. Si on prend en compte le fait que le CCAS a repris en interne la gestion d'épicerie sociale et ne verse donc plus à la Croix-Rouge une subvention de 97 000 euros, la dimension globale des subventions municipales est de l'ordre de 5 %. Enfin, malgré la baisse de nos recettes de fonctionnement, nous avons réussi à maintenir un niveau élevé et même légèrement progresser le virement de la section de fonctionnement pour financer nos investissements. Cette année, notre autofinancement s'établira à 4 640 000 euros contre 4 430 000 euros en 2015. Ainsi, nos dépenses d'équipement progressent. Les recettes supplémentaires obtenues par la réalisation de cessions, dont la partie de l'ancien palais de justice appartenant à la ville, compensant par ailleurs la baisse du fonds de compensation de la TVA. Le montant global des dépenses d'équipement sur le budget primitif ville et ses budgets annexes est de 7 710 000 euros pour 7 400 000 euros en 2015. Il faut souligner que cette somme est financée à hauteur de 43 % par des ressources propres à notre collectivité et sans augmentation de notre encours de dette, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Outre le fait qu'elles améliorent l'équipement de la commune, ces dépenses contribuent au soutien du secteur économique et, pour une part importante, à l'activité d'entreprises locales, évidemment. Pour amplifier leur impact, nous procéderons à une reprise anticipée du résultat de l'exercice 2015. Sans attendre le mois de juin, dès le Conseil municipal du 21 mars prochain, une partie de l'excédent 2015, soit au minimum 1 800 000 euros, sera intégrée dans notre budget 2016 et nous permettra de financer de nouveaux investissements. Ainsi, sur l'année 2016, nos dépenses d'équipement se montreront au minimum à 9 500 000 euros. Au total, depuis 2002, les investissements réalisés par la ville d'Épernay atteindront ainsi la somme de plus de 130 millions d'euros, donc depuis 2002. Dans le même temps, nous aurons réussi à baisser les taux d'imposition et à réduire notre encours de la dette de 29 %. Autant dire que, j'ose le dire, notre gestion est une gestion responsable, à la fois soucieuse des attentes des Sparnassiens et attentive à préserver des marges de manœuvre pour les grands projets de ce mandat. Si on vient maintenant sur le poste des dépenses et des principales opérations qui vont être menées au cours de cette année, je dirais que le budget 2016 conforte la cohésion de notre ville. En matière de cohésion sociale, évidemment, le CCAS joue un rôle primordial. En 2016, il disposera d'un budget global de 7 980 000 euros pour 7 780 000 euros en 2015. La subvention globale versée par la ville sera de 3,5 millions. Il s'agira en premier lieu de poursuivre la mobilisation des moyens en direction des publics les plus en difficulté. Outre l'accompagnement qu'il assure directement, le CCAS continuera d'apporter un soutien financier aux associations locales intervenant en matière de solidarité. L'année qui s'ouvre sera également celle de la réalisation d'un projet important avec l'installation de l'épicerie sociale dans un bâtiment mieux adapté. Pour ce faire, la ville va acquérir pour 366 000 euros et aménager pour 85 000 euros les anciens locaux de l'ACEDIC rue Henri Dunant. Le CCAS proposera d'y accueillir également une association intervenant dans le domaine de la distribution alimentaire. Par ailleurs, il profitera de ces locaux plus spacieux pour ouvrir un espace alimentation bébé en partenariat avec l'association Équilibre Marne. Aux côtés de l'hébergement dit d'urgence, le CCAS poursuivra l'expérimentation entamée l'an dernier avec la mise en place de logements SAS. Il s'agit de disposer de solutions pour répondre à la situation de Sparnassiens perdant leur logement à la suite d'un accident de la vie. Ces hébergements temporaires ont pour objectif de leur permettre de reprendre très rapidement un parcours résidentiel. S'agissant des seniors, le CCAS continuera de développer de ces animations et l'accompagnement du Conseil des sages. Par ailleurs, la modernisation de la résidence Le Cèdre se poursuivra avec la rénovation de plusieurs appartements pour un montant de 100 000 euros et le changement de sa climatisation pour un montant de 15 000 euros. 2016 verra le démarrage de l'opération conduisant à la réalisation d'une résidence autonomie à l'emplacement de l'actuel pôle d'animation senior. Ce projet sera porté par le CCAS. C'est un projet ambitieux qui doit nous permettre de disposer demain d'une nouvelle offre de logements modernes adaptée aux exigences du vieillissement. Pour ce qui est de la jeunesse, la réorganisation du service municipal qui en a la charge a permis d'assurer une meilleure cohérence entre les actions menées par le point d'information jeunesse et celles des centres sociaux et culturels de notre collectivité. Parmi celles-ci figurera cette année l'expérimentation d'un dispositif BAFA à coût zéro sur le modèle de la bourse au permis de conduire et, je le rappelle, en échange de tâches au bénéfice de la collectivité, la ville prendra en charge le coût de la formation des jeunes pour obtenir ce brevet. Cette aide sera apportée sous condition de ressources, évidemment. Forte de plus de 50 membres, la commission jeunes mènera des actions conjointes avec la commission des sages et créera un nouveau rendez-vous en fin d'année scolaire concernant l'aide apportée aux familles en lien avec la maison des parents et de l'enfant ainsi qu'avec les actions de prévention déjà menées, en particulier dans le cadre du dispositif de réussite éducative. Le Conseil des droits et devoirs des familles sera mis en place au cours de l'année. 2016 verra également l'accélération de notre plan de mise aux normes des bâtiments municipaux en matière d'accessibilité. Sachez que sur cette année, les interventions porteront sur une somme de 216 000 euros. Pour rappel, le taux d'accessibilité moyen des 69 établissements recevant du public qui appartiennent à la ville est actuellement de 70%. Sur ces 69 bâtiments, 32 sont déjà accessibles à 100%. Fin 2016, à l'issue des travaux qui seront réalisés, 46 ERP, établissements recevant du public, donc municipaux, seront totalement accessibles. Là encore, je crois pouvoir dire que notre action est à bien des égards exemplaire. Sur les 14 nouveaux établissements accessibles à 100%, 8 seront des écoles. Toujours dans le domaine scolaire, la principale intervention consistera en la réalisation d'un satellite de restauration au sein de l'école d'horticulture pour 143 000 euros. Il s'agit en effet du dernier établissement qui n'en bénéficiait pas jusqu'ici. Aujourd'hui, grâce à l'action menée depuis de nombreuses années, nos écoles maternelles et élémentaires disposent de bâtiments de qualité et d'un équipement numérique adapté. Ça tranche avec les informations que nous avons eues ces jours-ci sur ce qui se passe à Marseille. Elles ne seront donc concernées cette année. Pardon ? Oui, non, mais vous savez, je ne fais pas la peine de préciser. Je pense que. Elles ne seront. Non, je le dis parce que ça a ému beaucoup de gens dans les informations. À la radio ce matin, on n'entendait que ça, des classes épouvantables, de la moisissure, de l'amiante, etc. Quand on regarde l'état des écoles d'Épernay, grâce au travail qui a été fait depuis une quinzaine d'années, grosso modo, puisque plusieurs adjoints se sont succédés sur le poste et j'allais dire, les actions se sont enchaînées de façon parfaitement cohérente, je crois pouvoir dire, et les élus qui participent à la rentrée scolaire avec moi chaque année ne peuvent que se féliciter de la qualité générale de nos bâtiments qui sont entretenus, modernes et, depuis quelques années maintenant, équipées sur le plan numérique de manière tout à fait moderne. Les actions menées dans le domaine de l'éducation donc seront concernées, les écoles maternelles et élémentaires seront cette année essentiellement concernées dans le cadre du budget par les interventions de maintenance et d'aménagement courant. Enfin, je vous signale qu'il est prévu également une formation des encadrants périscolaires sur le thème de la citoyenneté, qui est un thème évidemment extrêmement important. En matière de qualité du cadre de vie, c'est un montant de 2 120 000 euros qui sera dévolu en 2016 à la poursuite de la rénovation de la voirie communale. Une partie de ce montant proviendra, je le précise, de l'affectation du résultat 2015 en mars. Outre les interventions ponctuelles, les principales opérations concerneront la rue de Bernon, la rue Maupin, la rue Renéer, la rue Chaudruel dans sa section entre la place Carnot et la rue des Vignoles, ou encore la rue des Huguenots dans la section entre la rue des Gencelins et la rue des Pavements. Ces voies s'ajouteront aux 33 km rénovés depuis 2001, sur les 65 km que compte la voirie communale. La ville accompagnera également l'importante opération de requalification menée par le département sur le pont de Marne. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce chantier. En tout cas, vous allez en entendre parler dès lundi prochain, puisque le pont de Marne va être refait par le département, puisque c'est une voie qui appartient, c'est un ouvrage qui appartient au département. Néanmoins, la circulation sera constamment maintenue sur deux voies au lieu de quatre actuellement. Et de son côté, la ville prendra en charge la mise en place d'un nouvel éclairage public et de nouvelles jardinières sur ce pont à hauteur de 95 000 euros. Ce pont changera assez fortement de physionomie et je pense qu'il sera avantageusement modernisé à la fois pour ses usagers, puisqu'on aura notamment des pistes cyclables sur ce pont, ce qui n'était pas le cas aujourd'hui, et en même temps, du strict point de vue de son embellissement et dans le cadre d'une approche touristique beaucoup plus séduisante. S'agissant d'aménagement urbain, notre collectivité se rendra propriétaire d'une parcelle appartenant au diocèse et située près de l'église Saint-Pierre-Saint-Paul pour 73 000 euros. Par la maîtrise d'emprise foncière dans le secteur, il s'agit de permettre prochainement la réalisation d'une coulée verte reliant le parc de l'horticulture au square Raoul-Chandon. Nos services y travaillent. L'évolution urbaine de ce quartier passe aussi par la démolition du préfabriqué implanté sur la parcelle que nous allons acquérir, ainsi que celle de l'ancienne cuisine centrale. C'est tout ce quartier situé entre les équipements que sont Buléo, la Maison des Arts et de la Vie Associative, le Parc de l'Horticulture et l'Église Saint-Pierre-Saint-Paul, qui va changer de visage. Le budget 2016 prévoira également les crédits nécessaires à la démolition de l'ancienne infirmerie située sur un terrain appartenant à la ville dans l'ancien quartier militaire Marguerite. Avec la communauté de communes, propriétaire d'une parcelle contiguë, il s'agira de céder ensuite ce terrain à un aménageur. L'année 2016 va également voir l'achèvement de plusieurs chantiers importants concernant des équipements majeurs de notre commune. Je citerai tout d'abord le parking souterrain des Arcades, qui changera de nom et s'appellera vraisemblablement le parking centre-ville, pour être plus clair, pour les visiteurs étrangers notamment, une fois sa rénovation achevée en septembre prochain. Sa requalification représente un coût de 1 800 000 euros sur l'exercice budgétaire actuel. À cette somme s'ajoute un budget de 250 000 euros pour assurer la modernisation du contrôle d'accès du parking, aujourd'hui totalement obsolète. Il sera ainsi possible d'utiliser demain des moyens modernes de paiement, de mettre en place des lecteurs optiques de plaques d'immatriculation, bref, d'avoir un parking flambant neuf, ce qui ne peut que faciliter son utilisation par les automobilistes. Et il s'agit évidemment d'un enjeu important pour notre centre-ville, même si ce centre-ville tire déjà beaucoup mieux son épingle du jeu que les centres-villes de la plupart des communes moyennes. Il s'agit de faire de ce parking le plus grand parking de la commune, une véritable locomotive pour l'activité commerciale du centre-ville, et nous savons qu'il y a énormément d'emplois en centre-ville. C'est pourquoi, lors de la définition des nouveaux tarifs du parking centre-ville, nous vous proposerons que la première heure de stationnement soit gratuite, en cohérence avec le choix que nous avons fait il y a maintenant de nombreuses années pour l'esplanade Charles de Gaulle. Toujours en matière de stationnement, la refonte du contrôle d'accès du parking centre-ville s'accompagnera de la même remise à niveau pour celui des parcs fermés de la commune, et ce pour un montant de 200 000 euros. Elle concernera en particulier l'esplanade Charles de Gaulle. En matière d'entretien, le parking centre-ville bénéficiera d'une nouvelle autolaveuse, tout comme le marché couvert. Parmi les chantiers qui s'achèveront en 2016, je citerai également celui de la reconversion de l'ancien parking Lalo en locaux d'activité pour la somme de 298 000 euros. Y seront en particulier rassemblés l'ensemble des services espaces verts de la ville et accueillis des activités d'insertion. Par ailleurs, après un bureau de poste, une supérette, une boulangerie et une boucherie, le nouveau centre commercial va accueillir prochainement la pharmacie du quartier de Bernon. L'objectif est maintenant de poursuivre la démolition de l'ancien linéaire commercial et d'aménager de nouvelles cellules commerciales du côté de la place Fadène-Gourma pour un montant de 216 000 euros sur le budget 2016. Quant à la place située devant la mairie de quartier, elle fera également l'objet d'un réaménagement. En matière de cadre de vie et de qualité de la vie, Épernay mène depuis plusieurs années une action importante en faveur du développement durable. Celle-ci est aujourd'hui reconnue bien au-delà des limites de notre département ou de notre ex-région. En 2016, elle va se traduire par un certain nombre d'investissements, pour partie cofinancés grâce au label Territoire à énergie positive obtenu par notre collectivité. Je citerai la rénovation de l'éclairage public par l'utilisation de LED dans le secteur de la rue Porte-Lucas, la mise en place de bornes pour la recharge de véhicules électriques ou l'expérimentation d'un parking de covoiturage près du stade Paul Chandon. Les coursiers de la collectivité seront quant à eux dotés d'une voiture électrique. Enfin, en complément des actions déjà réalisées avec l'association Atmo, la collectivité contribuera au financement d'une étude de modélisation de la qualité de l'air. En ce qui concerne le domaine culturel et d'une manière générale l'animation de la ville, la principale opération est celle du futur musée régional d'archéologie et du vin de Champagne, dont une partie du financement 2016 proviendra de l'affectation du résultat en mars prochain. Cette année démarreront les travaux d'aménagement du centre de conservation qui prendra place dans l'ancien bâtiment Lidl acquis l'an dernier. Dans le même temps, débutera le travail de définition architecturale et technique par l'équipe retenue à l'issue du concours portant sur l'aménagement du château Perrier, qui bénéficiera dès l'été prochain de travaux de reprise de sa toiture pour un montant de 115 000 euros. Dans le cadre de la montée en puissance du futur musée, des crédits seront affectés dès cette année à l'acquisition complémentaire d'œuvres pour un montant de 52 000 euros. De nouveaux postes seront également prévus. Il s'agit d'un documentaliste et d'un chargé de mécénat dont la mission sera de trouver des participations auprès d'acteurs privés pour contribuer au financement du futur musée. Autres équipements culturels d'importance, les médiathèques Centre-Ville et Daniel Rondeau vont bénéficier d'un nouveau logiciel de gestion qui permettra également de moderniser leur interface sur Internet, et ce pour un montant de 62 000 euros. Par ailleurs, pour améliorer la visibilité de leurs animations, celles-ci seront organisées autour de deux thématiques, l'astronomie avec la tête dans les étoiles en début d'année et l'évolution urbanistique de notre ville à partir de la fin d'année. En matière événementielle, après une première édition très satisfaisante, le festival Voilà l'été continuera d'égrener ses rendez-vous estivaux. Cette manifestation figurera au calendrier sparnassien, comme le rallye Épernay-Vin de Champagne, la célébration du 14 juillet, la fête de la bière, les amis de lumière ou, comme une fois tous les deux ans, la fête des sports. En matière sportive, plusieurs investissements importants marqueront l'année 2016. Le principal concernera la réhabilitation du terrain synthétique du stade Paul Chandon pour la somme de 265 000 euros. Ce terrain, je le rappelle, a été mis en place en 2000 et sa durée de vie inespérée au regard des techniques alors développées témoigne du soin apporté à son entretien par les services municipaux et je tiens évidemment à les remercier. Est également prévue la rénovation de la salle mise à disposition du Boxing Club à la Villa pour 69 600 euros. Pour le changement de chaufferie prévu à l'occasion de ce chantier, la ville bénéficiera d'une subvention de 15 000 euros, toujours grâce à son label « Territoire à énergie positive ». Enfin, notre collectivité accompagnera la mise en place d'une salle de bloc au bénéfice du club d'Épernay Escalade dans le gymnase du lycée Stéphane Hessel. Cet équipement, qui complétera le mur d'escalade déjà existant, fera du site d'Épernay la référence régionale dans cette discipline. La participation de la ville sera de 68 200 euros pour un coût global de 157 500 euros. 2016 verra la poursuite et le développement du sport santé, dont les actions coordonnées par un agent municipal permettent de mettre en cohérence des activités portées par le pôle senior, l'Office intercommunal des sports, plusieurs associations sparnassiennes et bientôt Buléo. Autre domaine essentiel pour l'animation de notre ville, mais également pour son économie, le tourisme doit pouvoir bénéficier des retombées de la récente inscription des coteaux, maisons et caves de Champagne au patrimoine mondial de l'UNESCO. Pour ce faire, nous continuerons de figurer au nombre des membres fondateurs de la structure qui assure la gestion du bien et à laquelle nous contribuons financièrement à hauteur de 15 000 euros. S'agissant de notre territoire, j'ai exprimé mon accord pour qu'un même comité local de gestion suive conjointement l'avenue de Champagne et les coteaux historiques situés entre Haï et Cumières, au regard des problématiques communes que ces sites partagent. Par ailleurs, afin de soutenir son activité, l'Office de tourisme Épernay-Pays de Champagne est l'une des rares associations dont la subvention progressera cette année. Elle sera de 425 800 euros contre 410 000 euros en 2015. Un crédit de 50 000 euros sera également dégagé pour des actions de promotion touristique. En la matière, constitue un bon indicateur d'impact, l'impact de la diffusion sur Internet du film présenté par ailleurs sur les vols long courrier d'Air France au premier semestre 2016. En moins d'un mois, depuis le 4 janvier, il a déjà cumulé plus de 82 000 vues et a été partagé plus de 500 fois. Enfin, en 2016, le dossier station de tourisme sera également déposé par la commune auprès de l'État afin que les acteurs du secteur puissent bénéficier des avantages liés à ce classement. Voilà, mes chers collègues, j'ai peut-être été un peu long, mais je tenais à vous présenter l'ensemble des aspects de ce budget 2016. Je voudrais remercier évidemment le travail des élus et des services qui, dans un contexte particulièrement difficile pour toutes les collectivités, et la nôtre notamment, a permis de définir le budget primitif qui est soumis ce soir à votre examen, puis à votre vote. Avant que je ne vous cède la parole pour vos interventions et que nous puissions évidemment débattre sur ce budget, je vais maintenant demander à Christine Mazzi de vous présenter rapidement les principaux indicateurs financiers qui illustrent ce que je viens de vous indiquer. Je vous remercie de votre attention.
Merci, Monsieur le maire. Donc, je vais essayer de faire rapidement un petit exposé. Nous allons parcourir ensemble quelques diapos. Donc le premier schéma représente tout simplement, c'est une petite, on va dire, une petite piqûre de rappel pour bien schématiser donc le budget principal qui concerne la ville et puis les budgets annexes, donc les budgets annexes qui sont les parkings, les deux cellules commerciales que sont Saint-Thibault-Bernon, le camping et le chauffage urbain. Donc pour rappel, la restauration scolaire a été intégrée au niveau du budget principal puisque jusqu'en 2015, la cuisine centrale ou la restauration scolaire était un budget annexe. Donc le budget global est de 59,3 millions d'euros pour un budget principal ville de 54,3 millions d'euros. Donc, concernant nos recettes réelles de fonctionnement, ce schéma représente l'ensemble de nos recettes réelles. Donc, ces recettes réelles de fonctionnement s'élèvent à 42,3 millions d'euros. En 2016, les recettes fiscales, qui sont en haut à gauche, sont estimées à 19,5 millions d'euros, qui est un produit légèrement en hausse du fait de la revalorisation des bases de 1% prévue par la loi de finances, par le projet de loi de finances. Les dotations et participations diminuent considérablement, plus de 8%, soit 1 108 000 euros. Le montant de la DGF, par contre, baisse de 1 100 000 de budget primitif à budget primitif, soit une diminution de plus de 12%. Donc on remarque encore une fois que une grosse partie de nos recettes réelles proviennent de la fiscalité des ménages, bien sûr, et puis des dotations de l'État qui, elles, sont en baisse. Une autre présentation, cette fois sous forme de comparaison, entre le budget 2015 en orange et le budget 2016 en vert. Donc, en ce qui concerne la fiscalité des ménages qui se situe tout en bas du schéma, donc on remarque bien ce que l'on vient de dire, la diminution de la fiscalité des ménages. En ce qui concerne la fiscalité des entreprises, donc la fiscalité des entreprises à pouvoir de taux évolue très légèrement de 1%, ce qui correspond là encore à la revalorisation des bases fiscales. Par contre, en ce qui concerne la fiscalité des entreprises sans pouvoir de taux, elle diminue de plus de 2%. Donc il s'agit d'une estimation qui nous est fournie par les services fiscaux suite aux déclarations. Les autres impôts et taxes augmentent, puisqu'en 2016, nous avons ajusté les recettes au montant perçu en 2015. Les recettes de gestion, elles, diminuent de 224 000 euros, puisque les dotations de l'État diminuent également aussi, on le voit bien là, de 12%. On voit bien que la diminution est flagrante. Alors, en ce qui concerne la dotation globale de fonctionnement, la DGF, donc depuis 2012, on voit que cette dotation globale de fonctionnement diminue. Donc, en ce qui concerne l'enveloppe normée, donc on rappelle que l'enveloppe normée, c'est le montant global, on va dire, attribué par l'État, l'enveloppe des dotations attribuées par l'État. Donc, depuis plusieurs années, les différentes composantes de cette dotation globale de fonctionnement diminuent sur la base du principe de cette enveloppe normée. Donc, en 2015, cela a conduit à une baisse de la dotation globale de fonctionnement de 232 000 euros. Une même diminution est attendue pour 2016. Donc, on voit bien qu'en 2014, cette DGF a baissé de 342 000 euros. Hein, on le voit, c'est le petit rectangle rouge qui est tout en haut. En 2015, cette DGF a baissé de nouveau de 806 000 euros pour un total cumulé d'1,15 million. Et puis, la prévision 2016, de nouveau une baisse de 810 000 euros pour un total cumulé d'1,96 million d'euros. Et puis, cette baisse en prévision 2017 qui devrait encore s'accentuer. Si l'on regarde cette fois nos dépenses réelles de fonctionnement, hors fonds de péréquation, donc cette analyse est faite, bien sûr, comme on l'a souligné tout à l'heure, en intégrant la cuisine. Donc ce graphique montre l'évolution de la section de fonctionnement depuis le budget 2007, puisque, comme le disait M. le maire tout à l'heure, on constate cette année que nos dépenses réelles de fonctionnement sont au même niveau. Hein, en tout cas, la prévision 2016 se retrouve au même niveau que celle du budget 2007. Donc, en vert foncé, les bâtons nous renseignent sur les dépenses réelles, et en rouge, donc la courbe rouge, elle, représente les prévisions du FPIC. Donc, on voit qu'il augmente. Donc, en fait, le FPIC représente, si on regarde bien, 3,19 millions d'euros estimés en 2007, représente 10% des dépenses réelles, hein, ce qui est quand même assez important. Nos prévisions de dépenses réelles de fonctionnement donc, ont baissé d'un peu plus de 6% depuis 2012. Et pour faire face aux dépenses nouvelles telles que le fonds de péréquation à la perte de nos recettes, de la contribution au redressement des comptes publics. Donc nos dépenses diminuent puisque nous devons faire face à cet accroissement du fonds de péréquation. Alors, les dépenses de fonctionnement présentées par chapitre, on va dire. Donc, on remarque bien la part la plus importante représentée par les dépenses de personnel, qui représentent 42%. Alors, il faut noter que les dépenses qui sont liées au transfert de personnel vers la communauté de communes Épernay Pays de Champagne apparaissent maintenant en dépenses de gestion, alors qu'auparavant, elles apparaissaient en dépenses de personnel. Donc, il y a un transfert de charges des dépenses de personnel vers les dépenses de gestion. Le FPIC, lui, représente, alors c'est ce qui est en rose, le FPIC représente 1,2 million d'euros, soit 3% des dépenses de fonctionnement. Et si on fait un comparatif, ça représente en fait le double de nos charges financières qui, elles, diminuent, comme il a été dit tout à l'heure. Donc, nos charges financières baissent de plus de 15% du fait de la conjoncture, d'une part, et puis, d'autre part, aussi du refinancement d'un prêt sur l'année écoulée. Donc, si l'on compare les dépenses réelles de fonctionnement du budget 2015 et du budget 2016, donc on voit une diminution des charges de personnel et une augmentation des charges de gestion, dû ce que l'on vient de dire au transfert de charges à la suite du transfert d'un certain nombre d'agents de la ville à la CCEPC. Également, donc, outre ce transfert, il y a eu également, bien sûr, le transfert aussi des agents de la cuisine centrale du fait de la fermeture de la cuisine centrale. Donc, des agents n'ont pas été, les agents qui étaient en fin de carrière n'ont pas été remplacés. Et puis, la poursuite des externalisations, suite, là, également, au départ en retraite d'un certain nombre de personnes du service entretien. Et puis, également, un effort sur le renouvellement des postes suite à des départs. Donc, il y a une réorganisation de certains services. Alors, les dépenses réelles de fonctionnement des budgets annexes, que sont donc les parkings, le camping, le chauffage urbain et les cellules Saint-Thibault. Donc, en ce qui concerne les parkings, on note une baisse de 8% des dépenses. Cette baisse est due tout simplement au fait des nouveaux investissements qui intègrent une garantie et donc qui font que cette année, enfin en tout cas pour l'année 2016, nous n'aurons pas de dépenses de maintenance, puisque la maintenance est comprise dans le renouvellement des équipements. En ce qui concerne le camping, il n'y a pas de différence notable. En ce qui concerne le chauffage urbain, donc j'insiste qu'il s'agit bien de budget prévisionnel et non pas de réalisé. Donc, si l'on note une augmentation en ce qui concerne le budget 2016 par rapport au budget 2015, tout simplement parce que le budget prévisionnel est basé bien évidemment sur des estimations. Donc, lorsque l'on estime le coût du chauffage urbain, nous n'avons pas encore connaissance du coût réel de l'année écoulée, puisque les maquettes pour le budget prévisionnel sont faites avant de connaître le montant réel. Toutefois, les facturations qui sont effectuées sont bien effectuées en fonction du coût réel du chauffage, puisque, pour rappel, nous refacturons exactement le coût du chauffage. Donc, il s'agit bien là d'un budget prévisionnel. Alors, en ce qui concerne notre dette, on revient sur ce qu'a dit M. le maire tout à l'heure, à savoir que 94% de notre dette est classée selon la charte Gisler en 1A et puis 6% en 1B, donc qui est une très bonne indication par rapport à la santé, dirons-nous, de notre dette. Alors, il nous a semblé intéressant aussi de regarder l'évolution de la dette de la ville et des annexes depuis 2002 pour bien voir l'évolution justement de notre encours de dette. On remarque que depuis quelques années, notre encours est stabilisé à 34 millions d'euros. C'est un souhait, donc depuis quelques années. Malgré cette stabilisation de l'encours de la dette, on remarque bien avec la courbe rouge qui, elle, représente les charges, c'est-à-dire les intérêts que l'on paie, une baisse des charges de cette dette, puisque du fait de la conjoncture, du fait aussi de la renégociation de certains prêts, donc les intérêts sont en diminution constante. Hein, pour mémoire, j'avais le chiffre tout à l'heure, la courbe donc représente les charges financières. et sont en baisse, une diminution de 73%, comme ça a été indiqué tout à l'heure, depuis 2002. Donc c'est quand même important. En ce qui concerne nos dépenses d'équipement, elles sont de 7,7 millions d'euros en prévision contre 7,4 millions d'euros en 2015. On remarque également, alors on voit au niveau de nos dépenses, donc elles sont financées à 43% par nos ressources propres, hein, c'est ce que nous montre le schéma de droite, 13% par des participations sur certains projets et 44% par des emprunts nouveaux. Alors on note cette année une diminution du FCTVA. Donc le FCTVA est ce qui est le FCTVA, c'est le fonds, on va dire, le remboursement de la TVA par l'État suite à certains investissements, tout simplement parce que le fonds de remboursement de TVA a diminué du fait d'une baisse de nos investissements, mais également aussi de certains investissements qui ont été faits sur les budgets annexes, notamment les parkings, qui eux ne sont pas assujettis à la TVA. Donc évidemment, pas de remboursement de TVA. Et j'en ai terminé.
Merci. Merci. Le débat est donc ouvert. Je ne sais pas qui demande à prendre la parole en premier. Monsieur Angers.
Oui, monsieur le maire, chers collègues. Donc, déjà, je voulais peut-être remercier le personnel pour la fourniture des informations. Féliciter également sa nouvelle directrice, la nouvelle directrice des services. Donc, moi, je n'ai pas été trop surpris par votre propos. Hein. On s'attendait à votre propos liminaire sur le désengagement de l'État. J'allais dire que ce propos nous manquait un petit peu parce que la contraction des séances de vœux cette année a fait qu'on ne l'a peut-être pas assez entendu. Et,
ça vous manquait.
On n'a entendu qu'une fois dans cette salle, lors de la séance conjointe des vœux de la communauté de communes et de la ville d'Épernay.
Ça vous manquait visiblement.
Donc ça me manquait un petit peu. Et je vais pouvoir glisser le CD-ROM que nous aurons dans quelques temps à côté des autres. Je remarque cette année que vous aviez fait écho de la situation antérieure, notamment avec le gel des dotations par la droite. Moi, je vais essayer de me placer un petit peu dans le futur. Je crois que les gens de votre courant politique verraient d'un très bon œil la candidature, déjà aux primaires, puis à la présidentielle, de l'actuel maire de Bordeaux, qui, il y a quelques semaines encore, disait que l'effort qui était consenti par les collectivités territoriales n'était pas encore assez fort et qu'il fallait gratter 100 milliards d'euros en provenance des collectivités territoriales pour soulager la dette de l'État. Alors, on conservera religieusement, même si ça n'a aucun écho avec la laïcité qui doit être de mise dans cette enceinte, mais nous conserverons quand même les CD-ROM de vos interventions. Si par bonheur pour vous, pas pour nous, le candidat à la primaire dont je fais état devenait dans quelques mois, l'année prochaine maintenant, président de la République, ressortirait évidemment ce CD-ROM pour le comparer aux propos que vous tiendrez dans le futur. J'ai regardé donc attentivement les documents qui nous ont été fournis et je voudrais peut-être présenter deux remarques de forme avant de faire une analyse plus politique, deux remarques de forme sur la présentation des documents, avec notamment la propension à mettre dans des comptes divers ou exceptionnels des sommes qui viennent s'empiler les unes aux autres et qui font perdre un petit peu la bonne lisibilité aux documents. Je m'explique. Nous avons notamment dans la section fonctionnement, dans la charge, dans le poste charge à caractère général de fonctionnement, un poste divers. Alors certes, il a été réduit d'une année sur l'autre, mais il passe de 1 154 000 à 751 000, ce qui est quand même relativement impressionnant. Nous avons également, toujours dans les charges de fonctionnement, un poste autre charge exceptionnelle de fonctionnement à 512 200 euros. Pour ce qui est des produits exceptionnels de fonctionnement, nous avons un poste qui passe d'une année sur l'autre de 1 000 à 788 600 euros. Alors je sais que vous allez me dire que ce sont là les nomenclatures comptables qui font qu'on affecte à certains endroits certaines sommes, mais je crois que pour la lisibilité de l'ensemble, il serait bon quand même de se forcer à avoir une présentation qui puisse être peut-être un peu mieux lisible. Donc c'était une remarque de forme que je souhaitais présenter en préambule. Donc j'ai pris les documents, moi, dans l'ordre. Et une fois n'est pas coutume, alors je vais peut-être voler la vedette à notre ami Marc Lefebvre, mais je me suis attaché à regarder les ratios.
Je les présente autrement.
Bon, alors donc on peut y aller. On peut y aller. Qu'est-ce qu'on peut tirer de cette page ? Ben, la première chose, c'est qu'on part déjà avec un nombre d'habitants qui est encore moins que celui de l'année dernière, puisque il y a 500 habitants de moins entre les chiffres qui sont annoncés pour le budget primitif 2016 et puis celui de 2015, hein, 499 exactement, je m'accordais le privilège d'arrondir à 500. C'est quand même pas rassurant. C'est quand même pas rassurant parce que, au bout du compte, on sera quand même toujours de moins en moins, et ça me semble quand même continuel depuis un certain temps, on sera quand même de moins en moins à payer et à assumer, je dirais, un certain nombre de charges dans cette cité. Donc je crois qu'il ne faut pas perdre de l'esprit que nous sommes encore loin d'être une cité qui soit attractive, malgré un certain nombre d'efforts qu'on peut consentir et qu'on peut, je dirais, vous accorder le bénéfice. Dans ces ratios, que je retiens également, nous sommes plus riches qu'ailleurs. Nous sommes plus riches que dans d'autres villes. Et oui, nous, nos recettes de fonctionnement par habitant ont même significativement été à la hausse entre deux années. Elles passent de 1700 à 1754 euros, alors que pour les villes de même strate, celui-ci a simplement évolué de 1500 à 1512 euros par habitant. Je tiens à rappeler que les villes de même strate, hein, c'est entre 20 et 30 000 habitants, hein, c'est pas 99 000 habitants. Nous sommes, petite remarque comme ça. Alors évidemment, ce chiffre de 1754, c'est une moyenne. Moi, je considère que cette moyenne, elle est quand même très avantageuse en termes de présentation parce qu'elle masque un certain nombre de disparités qui existent sur notre territoire. Je voudrais vous rappeler mon propos de l'année dernière, propos qui, je pense, ne vous convient pas, puisque j'ai encore le souvenir d'une remarque assez saignante à ce propos. Mais moi, j'ai l'impression que la classe moyenne et modeste de cette ville est en train de disparaître, elle est en train de fuir ailleurs. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas la diversité économique et la diversité de l'emploi qui va en face. Je ne vais pas revenir sur... mais à mon avis, vous aurez le temps de revenir à de meilleurs sentiments autour notamment de la filière bois et autour des nouvelles technologies liées à l'usage différent des matériaux. Je pense que votre passage par le conseil régional vous permettra d'apprendre un petit peu mieux tout cela. Mais aujourd'hui, il nous manque une classe moyenne. Et quand on a des recettes de fonctionnement aussi élevées par habitant, malheureusement, ça masque une chose, c'est que d'un côté, nous avons une population très aisée qui fait remonter la moyenne, et puis malheureusement, en face, nous avons une population qui est dans une grande détresse. Et je pense notamment à la situation difficile qui existe dans certains quartiers. Et je relève encore, comme l'avait fait, parce que moi je ne suis pas là pour voler les arguments des autres, mais comme l'avait justement fait en son temps, comme remarque Marc Lefebvre, l'usage notamment du bon taux de chômage sur Bernon, qui était annoncé dans les documents qui ont servi à aller capter ou qui cherche à capter quelques crédits européens, vous faites écho de 30% de chômage sur ce quartier. Et effectivement, quand on a une population aussi paupérisée, dont les revenus sont aussi paupérisés d'un côté, on ne voit pas comment, effectivement, notre moyenne de recettes de fonctionnement, elle peut atteindre 1 754 euros s'il y en a qui ne forcent pas le trait par ailleurs. Alors évidemment, j'entends bien votre discours sur le fonds de péréquation que nous avons à alimenter significativement et qui effectivement pénalise, et Madame Mazzi vient de le faire, vient de le démontrer au travers de son tableau, pénalise effectivement notre budget. Mais force est de reconnaître les chiffres, que nous apparaissons comme une ville riche, avec des gens qui ont des revenus significatifs. Les ratios le démontrent de manière incontestable. En ce qui concerne la baisse de la dotation globale de fonctionnement, vous faites écho que le gouvernement a mis un petit peu la pédale douce sur ce sujet. Ça a été fait quelque temps avant une échéance électorale. Il fallait certainement calmer un petit peu le jeu. Je n'en disconviens pas. Mais que note-t-on ? Que nous disent les ratios à ce sujet ? C'est qu'effectivement, dans notre ville, d'une année sur l'autre, la dotation globale de fonctionnement ramenée au nombre d'habitants diminue significativement, 357 à 317, alors que dans les villes de même strate, elle est quand même significativement inférieure. Elle est pratiquement stabilisée, 284 euros l'année dernière, 286 cette année. Donc nous sommes encore dans une situation qui est significativement stabilisée à ce domaine-là. L'encours de la dette. J'ai bien entendu vos propos, j'ai bien vu le bel histogramme qu'a présenté Madame Mazzi. Simplement, les ratios nous amènent à une interprétation un petit peu nuancée. Si l'on ramène à l'habitant, notre dette diminue de 1366 à 1351 euros entre deux années, alors que pour les villes de même strate, la diminution, c'est le même différentiel, mais qui passe de 1099 à 1082 euros. Moi, ce que je retiens de cette présentation, c'est qu'effectivement, nous sommes en diminution, mais que néanmoins, notre dette, elle reste par habitant de 279 euros de plus que ce qui concerne les habitants dans des villes de même strate. Ensuite, on peut se livrer peut-être à une interprétation des ratios en fonction de la politique ou des tendances que vous voulez donner. Il y a un ratio, moi, que j'ai trouvé assez phénoménal. C'est celui du ratio des dépenses de personnel par rapport aux dépenses réelles de fonctionnement. Dans les autres villes, toujours les villes de même strate, ce ratio, il est de 57,7%. Chez nous, il était l'an passé de 51,6%. Donc déjà 6 points de moins par rapport à la moyenne des villes de même strate. Et évidemment, avec les opérations qui sont attendues, à la fois d'externalisation des activités, à la fois de transfert d'un certain nombre d'effectifs, eh bien celui-ci est appelé à diminuer, puisqu'il est annoncé à 49,1. Et c'est certainement qu'une tendance qui débute à la baisse pour ce ratio, mais on peut s'interroger quand même sur notre volonté, sur notre volontarisme, sur notre peut-être notre côté plus pionnier qu'ailleurs, de vouloir à toute crainte aller vers le secteur marchand, d'une part, et deuxièmement, de déstabiliser le secteur public. Alors moi, je reviens à une remarque d'un candidat lors de la campagne des municipales, candidat qui n'a pas été élu, et qui disait « Un conseil municipal, ça doit se gérer comme une entreprise ». Je veux bien qu'on soit très soucieux, effectivement, des deniers publics. Nous avons le devoir de rendre des comptes à la population dans ce domaine. Mais une collectivité, c'est aussi un ensemble de situations dont, effectivement, il faut tenir compte de cet aspect de nécessaire et de scrupuleuse gestion. Mais c'est un aspect où, derrière, il y a des gens, il y a des populations qu'il faut faire vivre ensemble sur un même territoire et les associer à une démarche qui soit collective et progressiste. Je passerai rapidement sur le dernier ratio qui m'a interpellé, c'est celui lié aux dépenses d'équipement brut par rapport aux recettes réelles de fonctionnement. Dans les autres collectivités, il est de 24%, chez nous, il n'est que de 12%. Soit les autres collectivités sont encore plus rigoureuses que nous et gèrent mieux que nous, mais bon, là, il y a une tendance qui m'échappe. En ce qui concerne l'architecture budgétaire proprement dite, moi, j'ai diverses réflexions à faire à cette présentation budgétaire. Tout d'abord, évidemment, en section de fonctionnement et en dépenses, ce qui me choque, c'est le recours aux prestations de services. Celles-ci passent de 1500 euros à 603 700 euros d'une année sur l'autre. On pourrait y rajouter le poste de gestion de ces contrats de prestations de services qui passe, lui, de 46 000 à 51 000. Et on peut également y ajouter le poste nettoyage des locaux qui, lui, passe de 245 000 à 353 000. Donc là, il y a une tendance que j'ai pointée tout à l'heure avec les ratios qui nous inquiètent, c'est la marchandisation d'un certain nombre de nos activités. Et est-ce que nous souhaitons être une ville qui soit gérée à l'américaine et qu'on laisse le secteur privé s'introduire de plus en plus dans nos activités? Il y a des choix à faire. Je crois que sur ce terrain-là, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Donc j'ai bien noté, effectivement, le transfert d'un certain nombre de charges entre les personnels et qui, aujourd'hui, passent en charge de mutualisation. Dans les charges, je relève la hausse de notre participation au chauffage urbain. Là, sur le budget ville, sur le budget principal, il y a une hausse de 30%, puisque notre contribution passera de 94 800 à 123 600, donc une hausse de près de 30%, à moins d'avoir un hiver particulièrement tardif. Je vois mal des explications d'ordre climatique à cette hausse. Ça m'amène à faire une parenthèse, mais je pense que d'autres y reviendront dans le débat, qui concerne le budget annexe du chauffage, qui lui aussi est en hausse significative. Et là, ce qui nous inquiète effectivement derrière, c'est l'impact sur le consommateur. parce que quand on voit, je dirais, ces prévisions assez défavorables, on peut se demander à quelle sauce sera mangé le consommateur derrière lorsqu'il recevra sa note de chauffage. Le poste études et recherches en fonctionnement qui passe de 23 000 à 44 000 euros, donc peut-être nous justifier la nature de cette utilisation. Le poste fêtes et cérémonies, toujours en section fonctionnement, qui lui passe de 356 000 à 381 000. Est-ce que, au regard du budget que vous nous avez présenté, au regard des contraintes extrêmes dont vous avez fait l'écho, est-ce que ce poste-là n'aurait pas mérité, allez, je ne demandais pas de diminution, mais de rester dans une relative stabilité? Je vois que vous avez diminué un poste, qui est celui catalogue et imprimé, qui est passé de 125 000 à 330 000. Celui des publications reste stable à 78 000, toujours en fonctionnement. À l'heure des nouvelles technologies, on peut se demander si là, il n'y aurait peut-être pas eu un effort supplémentaire ou complémentaire à imaginer pour gagner quelques crédits. Certes, le poids des taxes foncières est moindre, mais cela se confirme par le délestage de notre patrimoine. Là aussi, c'est un choix que vous faites de se débarrasser d'un certain nombre de nos biens. Ça peut être contestable. On peut avoir une autre vision de la chose. Et effectivement, on retrouve dans les produits de vente à 1 129 000 une augmentation sensible de quelques centaines de milliers d'euros par rapport à l'année précédente. J'ai noté également la participation citoyenne, si je puis dire, à la restauration et aux activités, aux activités périscolaires par une contribution de 420 000 euros. Par contre, je suis heurté par la baisse de la contribution au centre communal d'action sociale qui serait réduit de 3 363 000 à 3 269 000, pas plus tard qu'il y a 15 jours, en ce même conseil municipal, nous avions conforté pour l'année 2015 la situation à 3 363 000 en précisant les uns et les autres que c'était la bonne somme pour boucler la situation 2015. Donc là, on repartirait sur une situation qui serait resserrée pour 2016. Ça nous étonne quand même un petit peu ce changement de tendance, ce changement de braquet en 15 jours de temps. De la même façon, la baisse de la contribution à la caisse des écoles m'a interpellé. Pour la section investissement, moi, je suis favorable au choix que vous faites, notamment d'engager des crédits sur les bâtiments et notamment à l'horticulture. Je rejoins vos propos. Effectivement, il y a une quinzaine d'années, nous avions des établissements scolaires qui n'étaient pas à la hauteur. Il y a eu un travail considérable de fait. On avait mis la pression. J'étais à l'époque jeune conseiller municipal. On vous avait mis la pression sur ce poste. Les bâtiments doivent être entretenus régulièrement. Et je pense que c'est des choix qu'il faut faire. J'ajouterai quand même un bémol par rapport à tout ça. Vous vous êtes quand même facilité la tâche ces dernières années par la fermeture d'un certain nombre d'établissements qui rendent certainement la tâche désormais plus facile pour mener celle-ci à bien. En ce qui concerne la voirie, alors moi, je ne pars pas sur les mêmes chiffres que vous. Vous avez cité un chiffre de 2 200 000 euros tout à l'heure, alors que sur le budget tel qu'il est présenté, j'ai 1 559 000 euros. Peut-être y a-t-il déjà des reports de l'année précédente. Alors cette année, ça voudrait dire que nous les anticipons et que nous sommes déjà en avance par rapport à la situation précédente, parce qu'on a bien compris les stratégies qui sont employées dans ce domaine-là, et de faire en sorte que les diverses déclarations modificatives qui peuvent intervenir en cours d'année soient des moments de bonheur partagé par, je dirais, une certaine souplesse budgétaire retrouvée. Donc voilà, en ce qui concerne les dépenses d'investissement, en recettes d'investissement, je note avec satisfaction 353 900 euros à attendre de la région. Je voulais vous féliciter parce que vous êtes un fiefé chasseur de primes. Au bout d'un mois, vous avez déjà été nous récupérer tout cela. Ou est-ce que c'était déjà des sommes qui étaient dans les tuyaux et qui devaient nous arriver à un moment ou à un autre? Vous nous expliquerez tout ça, j'en suis sûr. Je me suis aussi attaché, une fois n'est pas coutume, à la lecture des budgets croisés, pour voir en grande masse l'impact des différentes politiques et puis voir quels peuvent être les sujets sur lesquels on peut infléchir, on peut faire des remarques, on peut abonder, on peut amender, on peut vous pousser, on peut vous retenir. Il y a toujours, puis en plus, il y a toujours un grand intérêt dans cet exercice-là à faire parler vos chiffres et puis pas les nôtres, parce que quand on parle de vos chiffres, a priori, vous n'avez pas matière à les contester. Moi, j'ai relevé quand même deux choses qui m'ont, dans les budgets croisés, qui m'ont beaucoup intéressé, on ne va pas dire amusé, ça serait présomptueux. Le premier, c'est la faiblesse des crédits dédiés à l'environnement. Alors, ça paraît étonnant, puisque vous avez encore parlé de ça dans votre présentation, développement durable par-ci, environnement par-là. Mais les budgets croisés pointent que la part environnement, elle est simplement de 155 800 euros de dépenses en fonctionnement par rapport à 8 322 000 dédiés à l'aménagement du service urbain. Si on se place en investissement, l'effort fait sur ce poste environnement n'est que de 129 000. Et ça paraît bien chétif par rapport à un budget total d'investissement en aménagement urbain de 2 349 000. Alors, je dirais que ça surprend peut-être moins ou peut-être peu certains collègues qui sont convaincus que la politique environnementale, elle est aussi très cosmétique et qu'elle relève beaucoup de la communication. Justement, la communication, c'est le deuxième point que je relève et qui m'a intéressé en matière de budget croisé. Donc, section fonctionnement, 652 160 euros en communication. Pour relativiser les choses, cette somme-là, elle est, par exemple, supérieure au budget de fonctionnement de la restauration scolaire. Elle est supérieure aux aides qui sont allouées au tourisme. Elles sont supérieures, et là j'en profite pour saluer l'activité de mon ami de Mongin, elles sont supérieures aux aides qui sont accordées au théâtre, 636 000 aides consolidées. Donc vous voyez, 652 000 pour la communication. Et là où ça nous épate beaucoup, parce que malheureusement, il y a quelques améliorations dans la présentation du budget qui n'en sont pas forcément, et notamment la présentation du tableau des effectifs. Parce que l'année dernière, on avait dans le tableau des effectifs les gens qui venaient de tel ou tel service, et on avait notamment ceux qui venaient de la communication. On a bien vu l'année dernière qu'il y en avait 7. Dans le nouveau tableau des effectifs, il n'y a plus moyen de lire tout ça. Donc on ne sait pas trop combien ils sont, donc ça, vous nous confirmerez ça. Alors moi, ça ne me dérange pas du tout. Bien au contraire qu'on parle d'Épernay. Ça ne me dérange pas du tout que l'on mette en avant notre cité. Par contre, ce qui m'ennuie, Ce qui m'ennuie, c'est la limite, c'est la frontière qui existe entre la communication institutionnelle et la communication politique. Parce que je trouve que quand même, il y a certains articles, certaines façons de présenter les choses qui relèveraient, à mon avis, beaucoup plus de la deuxième catégorie. Et là, on peut se poser effectivement des questions sur la légitimité de concéder des crédits publics à cela. J'en ai terminé pour le budget primitif. Quelques mots sur le budget, sur les budgets annexes. Je ne reviendrai pas sur le budget chauffage urbain. Je pense qu'il y aura d'autres interventions à ce propos. Moi, je voudrais simplement m'attarder quelques instants sur le budget parking, qui sera en évolution pour 2016, compte tenu notamment de la rénovation du parking des arcades, rénovation contre laquelle nous ne nous sommes pas opposés, parce qu'effectivement, l'équipement était obsolète. Ce que je trouve amusant, quand même, c'est que, au travers de ce budget parking, la vocation, c'est également de dégager du bénéfice, 212 000 euros qui passeraient du fonctionnement vers l'investissement. Bon, quand on parle comme ça, pourquoi pas? Mais ça me pose quand même question, moi, quant à la place que l'on concède à nouveau à la bagnole dans cette ville. On a l'impression qu'au travers dont la politique est menée autour la politique voiture, eh bien, qu'on fait tout pour rentrer le plus de voitures. On va les rentrer aux chausse-pieds bientôt dans notre ville. Tout est fait pour faire rentrer le plus en plus de véhicules dans notre ville pour que ça rapporte un maximum d'argent pour pouvoir équilibrer nos budgets. Donc quelque part, ça me gêne. Et ça me gêne d'autant plus quand on a des événements, et on en aura de plus en plus, des événements climatiques tels que ceux qu'on a vécu il y a quelques semaines, avec notamment les pics de pollution, et je ne parle là que des particules fines, je me garde bien de rentrer dans tout autre débat et de faire, je dirais, toute autre analogie dans mon propos. Je pense que de plus en plus régulièrement, compte tenu d'évolution du réchauffement climatique, nous serons confrontés à des taux de pollution qui sont élevés, qui mettent en difficulté, pour ne pas employer d'autres mots, la santé des plus jeunes et des plus fragiles dans notre société. Alors, je sais, vous allez me dire, nous, on a été sélectionnés par le ministère de l'écologie pour qu'on regarde attentivement les progrès qu'on va faire en matière de qualité de l'air. J'allais dire, tant mieux, mais ça ne nous empêche pas, nous, de prendre les dispositions et d'aller encore plus loin dans ce domaine-là. Et j'allais dire que il est presque dommage que notre nouvelle région n'ait pas désigné un vice-président à l'attractivité des territoires, à la qualité de la vie et à la transition énergétique. Pourquoi ? Parce que dans notre cité, nouvellement inscrite au patrimoine universel, il nous aurait certainement aidé à restituer le centre-ville aux habitants et aux touristes, à faciliter le développement du transfert collectif encore plus qu'il ne l'est. Je voudrais saluer l'initiative autour des spectacles du Millésium, à faciliter l'usage des nouvelles énergies, à faire en sorte que l'essentiel du trafic qui vient au cœur de cette ville, eh bien, celui qui n'a pas besoin d'y être, eh bien, il puisse aller ailleurs et l'extérieur. Et je pense que là, ne serait-ce que sur la politique de développement du commerce, moi, je ne partage pas forcément votre avis. Je pense que ce n'est pas par une profusion de véhicules dans la ville ou à proximité des centres-villes qu'on améliorera l'envie des gens de venir consommer dans le centre-ville. Voilà ce que m'inspire le budget primitif que vous nous avez présenté.
Merci, monsieur. Tout... Oui, pardon.
Je n'ai pas terminé.
Je pensais que...
J'ai la parole. J'ai encore un peu de temps. Je voulais quand même dire.
Vous lui avez fait rater son match, hein, c'est de votre faute.
Et 1-1 à la mi-temps.
Moi, je voudrais conclure également sur un autre aspect, parce qu'il y a effectivement la partie qu'on voit, mais vous avez bien précisé tout au long de votre propos que notre budget était de plus en plus lié, notamment au travers de la mutualisation, avec la communauté de communes. Et ça nous oblige aussi, en tant qu'élu municipal, à regarder ce qui se passe à côté, parce que ça vient impacter de manière également significative ou complémentaire les deniers de nos concitoyens. Qu'est-ce qui va se passer d'important là, à la communauté de communes, où il y a, je le rappelle, la même gouvernance, puisque vous avez les deux casquettes. Qu'est-ce qui va se passer de manière significative dans les prochaines semaines? Eh bien, c'est la mise en place d'une nouvelle taxe, la taxe des ordures ménagères. Et quel effet ça a par rapport à nos concitoyens sparnassiens? Eh bien, c'est qu'au sein de la communauté de communes, il y aura 14% de ménages qui ne sont pas imposés aujourd'hui, essentiellement des gens qui sont locataires, essentiellement des ménages aux ressources très, très, très modestes. Eh bien, ces gens-là vont se retrouver contributeurs de cette nouvelle taxe. Pour chaque ménage, cela pourra constituer une contribution qui monterait jusqu'à une centaine d'euros. C'est donc un nouvel élément qui va venir conforter la fracture entre les deux classes sociales que j'évoquais au début de mon propos. Monsieur le maire, moi je vous demande de veiller et de travailler à ce qui rassemble nos citoyens plutôt qu'à mettre en œuvre des politiques qui les divisent. Je laisserai, et là je vais en avoir pratiquement terminé, je laisserai donc le soin éventuellement à mon collègue Richard de venir compléter tel ou tel aspect de mon propos s'il en est besoin. En ce qui me concerne, je ne voterai pas votre budget. Je le considère clientéliste, à l'instar des politiques que vous conduisez depuis plusieurs années. Je pense que notre cité a besoin de voir son service public conforté dans l'intérêt de tous. Nous avons aussi besoin d'une diversité économique qui nous permette de faire en sorte de retrouver un spectre social qui soit complet, le plus complet possible. Et dans ce spectre social le plus complet possible, nous avons le devoir de solidarité pour nos concitoyens les plus faibles. Au travers de la présentation de ce budget, je n'y trouve pas mon compte. Je vous remercie.
Merci. Qui souhaite prendre la parole, Monsieur Durand-Soye? Je répondrai évidemment à toutes les questions. J'essaierai de répondre en tout cas à toutes les questions parce qu'elles étaient nombreuses.
Je vais rassurer l'Assemblée tout de suite. Il n'y en a que deux pages. Monsieur le maire, chers collègues, de budget en budget, on peut assister au triste déclin de notre grand pays qu'était la France. La France et ses communes qui, comme Épernay, déclinent d'année en année, de mois en mois, de jour en jour. Cette année, c'est encore 1 million que l'État se permet d'économiser sur le dos des contribuables sparnassiens en sortant une nouvelle fois sa meilleure arme, la DGF. Mais c'est compréhensible. Le contexte actuel voulu par nos élites européennes impose ce mécanisme, et ceci au détriment des Français qui, eux, n'ont plus qu'à contempler ce triste spectacle et continuer de travailler et payer en se voyant infliger continuellement des hausses en tout genre et surtout une baisse inexorable, de leur pouvoir d'achat. Certes, c'est général et national, mais les conséquences se font ressentir à tous les niveaux et bien évidemment à Épernay comme ailleurs. Dotation de l'État en baisse constante, dotation de la région, moins 10 000 euros sur 3 ans, mais ça vous allez régler le problème, je pense, l'année prochaine on n'en parlera plus. La DSI qui passe de 14 000 euros à 2 800 euros, la taxe EDF qui a été votée au maximum pour au final arriver à une baisse des recettes. Vous allez nous répondre que vous ne faites que subir, et nous vous l'accordons. Mais au-delà de ça, il vous faudrait être plus réactif au niveau de la population sparnassienne et peut-être l'écouter de temps en temps, par le biais des élus qui peuvent en représenter une quantité certaine. La mutualisation a été votre cheval de bataille ces dernières années, et vous avez su la vendre aux citoyens comme vous avez essayé de nous la vendre. Cependant, on peut s'apercevoir, par exemple, que ce système mis en place dans le but d'économie provoque aujourd'hui une hausse de 5% sur 3 ans sur le poste des fournitures administratives. Les citoyens attendent des explications cohérentes sur ce mode de fonctionnement qui va à l'encontre de ce qui était prévu. Nous remarquerons aussi que les Sparnassiens ne sont pas consultés sur différents sujets importants qui peuvent toucher leur quotidien, leurs finances, comme l'accueil en grande pompe de clandestins sur notre commune. Et là, nous dénoncerons une nouvelle fois le rôle inacceptable d'une association qui bénéficie de l'argent public de notre ville, en l'occurrence le club de prévention, encore bien subventionné pour la prochaine année. Dans le domaine de la culture, la population, là non plus, n'est pas écoutée ou sollicitée quant à ses attentes. Le sujet brûlant que nous ne lâcherons pas du Salman Hazard en est le meilleur exemple. Alors que tous les partis, ici même, ont affirmé haut et fort qu'effectivement, il y avait sujet à discussion sur les programmations ou le mode de fonctionnement, y compris dans votre majorité, monsieur le maire, ne vous en déplaise. Nous pensons que là, les commissions auraient un rôle important à jouer et qu'il serait bien plus utile qu'un avant-conseil consultatif. Cependant, nous tenons tout de même à féliciter les services administratifs et municipaux dans leur tâche ingrate à trouver des solutions et à se creuser la tête, beaucoup plus que certains élus ici présents ou non présents, afin d'établir un budget avec des dépenses incessantes et des recettes à la baisse d'année en année. Certaines décisions sont, on peut le dire, judicieuses parmi les temps qui courent. Et sur certains points, nous ne pouvons que vous rejoindre et vous encourager à poursuivre dans cette voie. Ce qui peut nous laisser penser qu'éventuellement, cela aurait été possible de le faire avant, sans attendre des décisions irresponsables de nos dirigeants. Comme disait un journaliste du XIXe siècle, « gouverner, c'est prévoir ». Pour clore cette intervention, nous ne voterons pas ce budget car il représente des chiffres qui ne correspondent pas aux attentes de la population sparnassienne sur plusieurs points. Cependant, nous ne nous y opposerons pas non plus afin de montrer, contrairement à ce que vous pouvez imaginer dans le meilleur de vos rêves, que le parti que nous représentons est un parti proche et à l'écoute des citoyens, comme notre action le démontre depuis maintenant 2 ans dans notre ville. Un parti qui ne cherche pas à diviser, comme vous aimez à le répéter. Et à ce sujet, d'ailleurs, nous pensons que vous jouez là un jeu très dangereux. Opposer les gens en surfant sur l'actualité au détriment de la réalité, c'est comme laisser la casserole de lait sur le feu. À un moment, ça déborde. Nous nous abstiendrons donc sur ce vote et faisons le souhait d'une meilleure écoute, d'une meilleure écoute auprès de vos contribuables, quels qu'ils soient. Le souhait d'un travail commun et de qualité au sein des commissions. Un travail d'équipe, peut-être pas, mais un travail de qualité avec des idées qui permettraient d'anticiper des budgets de plus en plus restreints. Et j'aimerais ajouter quelque chose. Je peux regretter une baisse de 100 000 euros pour le budget du CCAS, ainsi qu'un investissement d'équipement au niveau du camping qui passe de 44 000 euros à 900 euros. Merci de votre attention.
Merci. D'autres demandes de parole, Monsieur Lefebvre ?
Bon, merci. Je vais essayer d'être assez rapide. Je crois que j'ai trouvé un adepte ce soir pour les ratios, hein, ce qui était important pour moi. Donc,
le maître a dépassé l'élève a dépassé le maître.
Ah, ouais, oh, je vous en donnais quand même des ratios. Hein. Mais, je sais que vous n'aimez pas ça. Alors, naturellement, on va retrouver beaucoup de choses de ce qui a été dit ce soir. C'est tout naturel. Hein. Il y a une grande philosophie que nous partageons. Donc, à nouveau, nous venons d'entendre votre sempiternel discours sur la diminution des dotations de l'État et sur le versement du FPIC. Êtes-vous contre le respect des règles de l'Europe, la limitation des déficits budgétaires, contre la solidarité entre les villes riches et les villes pauvres ? Votre parti, l'UDI et la droite, n'ont-elles pas voté en bloc ce FPIC à l'initiative du gouvernement Sarkozy ? Alors, je vais développer surtout 3 points dans le budget primitif. Pour moi, le budget 2016 est moins solidaire, moins social, moins environnemental. alors que dans vos discours, et notamment la dernière, la priorité des priorités, c'était d'avoir une ville solidaire, plus solidaire. Alors moins solidaire et moins sociale, avec des diminutions de dotations, notamment au CCAS, de 94 000 euros, aux associations de 9 600 euros et de 616 000 euros depuis 2011. Cette diminution est limitée artificiellement par l'augmentation considérable à 1 012 233 euros de la valorisation de l'utilisation des équipements sportifs. Et je voudrais savoir sur quelle base avez-vous augmenté cette année cette valorisation. Donc sur les 3 millions et quelques, il y a déjà 1 million qui n'est pas donné véritablement aux associations. C'est ça que les Sparnassiens doivent entendre. Et puis enfin, ça a été évoqué aussi, une diminution de la subvention de la caisse des écoles de 23 300 euros. Un budget moins environnemental, surtout ce qui a été dit transversalement, je ne le partage pas tellement parce que pour moi, la voirie, c'est important et ça fait partie de l'environnement. Et là, les crédits destinés à la voirie sont en chute de 82% par rapport au budget 2014. Les crédits voirie n'ont jamais été aussi bas. Ils sont à environ d'1,5 million et non pas de 2 millions et quelques, comme vous l'avez noté dans votre propos. Les investissements en général sont en chute. Le compte 2315, installations matérielles et outillages techniques, passe de 1 318 000 à 774 700, soit une diminution de 70% et moins 267% depuis 2014. Nos dépenses d'équipement sont inférieures de 39% à celles des communes de la même strate. Alors, le budget est en équilibre grâce à une diminution des frais de personnel, ça a été évoqué. 19 postes au total disparaissent de l'effectif. On passe de 452 l'an dernier à 433. La différence est due à un transfert de 14 postes, je crois. Les 5 postes restants devraient disparaître bientôt, je pense. Donc, vous pourrez, si vous voulez, me dire combien de postes ont été transférés, si c'est 14 ou 19. Donc, c'est dans la page 101 du budget, que vous connaissez parfaitement. Sur les 433 emplois budgétaires, seuls 400,1 sont pourvus. Alors, comptez-vous supprimer encore d'autres postes, puisqu'il y a encore plus de 30 postes possibles à supprimer. Bon, vous ne pouvez pas supprimer les 33 parce que je le sais qu'il y a des temps partiels et si ces temps partiels voulaient redevenir à temps complet, cela n'est pas possible. Mais quelle est vos vues pour les années à venir? Pour ma part, je dis oui à la mutualisation avec la communauté de communes, mais non à la fusion ou plutôt à la confusion. Stop à la privatisation, hein, on a vu, vous appelez ça vous externalisation, et à l'hémorragie dans le personnel. Gardons nos services publics de qualité. Ce budget en équilibre grâce à des recettes importantes. Notre produit d'imposition est de 49,3% supérieur à la moyenne nationale. Les taxes foncières et d'habitation augmentent cette année de 366 000 euros. On le sait, l'augmentation est due à 1%, etc., des bases. Mais vous n'augmentez pas, on le dit à chaque fois, les taux, mais les impôts payés par les Sparnassiens augmentent bel et bien. Les produits des services du domaine augmentent de 358 000 euros, 400. Les droits de stationnement de 87 500 euros. Le produit des amendes de 70 000 euros. Donc attention, les amendes sont en forte augmentation. Un budget en équilibre grâce à des recettes exceptionnelles par la vente du patrimoine pour 1 184 500 euros en produits de cession et d'immobilisation en investissement et pour 778 600 euros en fonctionnement. Concernant les frais de personnel, quelques interrogations. Le compte 64131, rémunération des personnels non titulaires pour un montant de 1 747 410 me semble élevé. Alors qu'il y a aussi le compte 7218, autre personnel extérieur, de 113 020 euros. Concernant les comptes divers soulevés par Jean-Paul Anger, je ne l'ai pas remis cette année, puisque ça fait 6-7 ans que je vous le dis, mais c'est vrai qu'ils ont quand même diminué grâce à notre pression depuis plusieurs années.
Donc, dernière question concernant le personnel. Je sais que la commune versait des indemnités au directeur de l'Office d'un tourisme. Est-ce qu'elle continue? Et si oui, au niveau de quel montant? Et ceci, naturellement, en dehors de la subvention. Concernant la dette et son encours, votre nouvel objectif est de stabiliser à 34 millions d'euros. Mais je me rappelle, lors d'un débat d'orientation budgétaire du 13 décembre 2010, vous aviez comme objectif de réduire cet endettement à la moyenne nationale en quelques années. Donc cet engagement ne sera jamais réalisé puisque vous semblez rester à ce niveau et qu'actuellement notre encours de dette est de 23% supérieur aux communes de la même strate d'habitants. Par ailleurs, comme je le mentionnais lors de la DOB, la conjoncture économique va en s'améliorant. Les exportations de champagne sont en nette progression, même à un maximum, je crois, 312 millions de bouteilles de colle, et c'est bien pour notre région et pour notre ville. L'euro a diminué face au dollar, les hydrocarbures sont au plus bas, les taux d'intérêt et les charges financières diminuent. Tout cela devrait favoriser l'économie en général et la gestion de notre ville. En conclusion, Épernay est une ville riche, dont la richesse est mal partagée. Elle a un potentiel financier par habitant de 1603 euros, supérieur de 32,5% à la moyenne nationale. Cet écart s'est accentué de près de plus de 2% par rapport à l'an dernier, avec un produit d'imposition directe supérieur de 49,3%, des recettes réelles de fonctionnement supérieures de 16%. Le budget de la ville devrait être tout autre au niveau de l'imposition, de l'investissement et de la solidarité. Et j'en reviens, comme le collègue, avec le futur vote de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à la communauté de communes. Vous allez faire croire à une certaine partie de la population à une diminution des impôts communautaires, alors que cela constituera un transfert vers les 2700 ménages qui ne paient pas de taxe d'habitation, ce qui constitue un transfert vers les couches sociales très défavorisées. Quel progrès social et quelle solidarité des pauvres envers les classes les plus aisées? Monsieur le maire, je vous invite à ne pas vous complaire dans votre autosatisfaction, à ne pas augmenter les taux d'imposition, mais à agir pour résoudre les graves problèmes sparnassiens que sont la fracture sociale à Épernay, avec une grande richesse et une grande pauvreté et précarité, la chute démographique de 499 habitants par rapport à l'an dernier, l'enclavement, le combat contre le chômage, dont vous avez reconnu récemment donc les forts pourcentages à Vernon, mais aussi le chiffre de 14%, même plus en moyenne dans notre ville. Sur votre copie, je noterai volontiers, doit tenir compte du contexte général dans sa gestion et peut nettement mieux faire vu son potentiel. Pour terminer, j'espère que 2016 ne ressemblera pas à 2015, année noire pour l'atteinte au service public esparnassien. Je vous remercie.
Bien, il y a eu beaucoup de sujets évoqués. Je vais essayer de répondre à la plupart des questions. L'impression d'ensemble, je mets à part l'intervention du Front National, parce que j'y reviendrai dans un instant, mais s'agissant de l'intervention de M. Angers et l'intervention de Marc Lefebvre, c'est que, grâce à vous, j'ai l'impression de rajeunir. J'ai l'impression de me retrouver en 81, le 10 mai 81, où les accents lyriques de la gauche arrivant au pouvoir résonnent encore dans mon esprit et vous venez de les réveiller ou d'en augmenter l'intensité. On vient de reparler de classe, ça y est, la lutte des classes, c'est reparti. La fracture sociale, c'est 95, mais je rajeunis quand même, un peu moins, mais je rajeunis aussi. Fracture sociale, lutte des classes, pratiquement, enfin... On va pas encore nous dire qu'on vient de passer ou qu'on vient de passer de la lumière à l'ombre pour paraphraser Jacques Lang qui disait le contraire en 81. Non, je pense qu'il faut être essayer d'avoir une analyse peut-être moins politicienne et plus objective des choses. D'abord, je voudrais tout de suite, contrer un élément qui a été donné par les uns et par les autres, y compris le Front National, c'est cette histoire de baisse de la subvention au CCAS. La subvention au CCAS sera cette année 3,5 millions. Elle ne baisse pas du tout. Il y a effectivement une baisse qui touche le CCAS, qui représente la subvention que le CCAS versait à l'épicerie sociale. Cette subvention, pour l'épicerie sociale à la Croix-Rouge, cette subvention était de 97 000 euros. Sauf que le CCAS reprend l'activité à son compte. Ce sont maintenant des agents du CCAS qui gèrent l'épicerie sociale et donc cette subvention n'a plus à être versée. Donc elle baisse de 97 000 euros. Par contre, la subvention, je l'ai indiqué tout à l'heure dans mon propos, je vous lis le court passage. En matière de cohésion sociale, le Centre communal d'action sociale joue un rôle primordial. En 2016, il disposera d'un budget global de 7 980 000 euros pour 7 780 000 euros. Pardon, je reprends. Le budget 2016, 7 980 000 euros. Le budget 2015, 7 780 000 euros. Et la subvention globale versée à la ville sera de 3,5 millions d'euros. Je vous rappelle ces chiffres parce que je pense que vous avez tous un peu mélangé les choses.
Si vous me permettez, l'épicerie sociale constituée avait une subvention, mais ça va être un transfert de coûts au CCAS.
Absolument pas, puisque le CCAS dépensait une subvention au bénéfice de la Croix-Rouge. Cette fois-ci, il a embauché du personnel à la place d'une subvention qu'il versait. Donc il y a effectivement.
Mais s'il embauchait du personnel, il va avoir des charges supplémentaires.
Mais non, mais ces charges, il les avait sous forme de subvention qu'il versait. Donc aujourd'hui, on est exactement dans la situation contraire de ce qui se passe avec la communauté de communes, où effectivement, il y a une mutualisation qui fait apparaître une baisse de nos frais de personnel d'un côté, mais une augmentation de nos dépenses de gestion de l'autre. Ben, pour le CCAS, c'est exactement l'inverse. On a une baisse des subventions versées par le CCAS, et on a par contre une augmentation de ses frais de personnel, puisque les personnels de la Croix-Rouge ont été remplacés par des personnels du CCAS. Mais le budget du CCAS est à la hausse et la subvention de la ville est bien à 3,5 millions. Donc je pense que c'est une erreur de lecture que vous avez faite les uns les autres. Je suis prêt évidemment à vous rencontrer avec Delphine Nou qui a élaboré ce budget s'agissant du CCAS pour vous démontrer, preuve à l'appui, que le budget est bien en augmentation. Donc tout votre discours sur le fait que la ville n'est plus sociale, n'est plus solidaire, etc. tombe à l'eau puisque les chiffres que je viens de vous donner démontrent l'inverse. Autre élément.
Elle
est pourtant réelle, je peux vous assurer.
Ah oui, mais
non, forcément, les chiffres du budget font apparaître des chiffres bruts. On n'a pas toujours le détail des augmentations ou des diminutions qui interviennent. On parle souvent d'une comparaison de budget à budget, mais effectivement, si le périmètre a évolué, les dépenses sont parfois différentes à la hausse ou à la baisse. Mais en tout cas, il n'y a pas de diminution, mais il y a bien une augmentation du budget du CCAS dans les proportions que je viens de vous indiquer. Pareil sur le raisonnement sur les ratios. Alors c'était jusqu'ici la spécialité de Marc Lefebvre, c'est maintenant celle de Jean-Paul Anger. J'espère que... Je vous laisserai régler vos comptes entre vous. Non, il faut se méfier des ratios. Pourquoi ? Parce que les ratios sont extrêmement réducteurs. Je prends un seul exemple. Quand la population des Pyrénées diminue, les ratios changent, alors même que le niveau de défense peut rester le même. Je prends l'exemple de la DGF, l'évolution de la DGF qui était en 2015 de 357 euros par habitant sur la population. Elle apparaît sur le document que vous avez avec une baisse de 40 euros en 2016. Si on avait comptabilisé cette baisse avec le même nombre d'habitants qu'en 2015, on serait à 311. Donc dans un ratio par définition, il suffit que l'un des deux chiffres change pour que le ratio prenne une signification ou une orientation parfois différente. Néanmoins, sur le fond...
Il y a une constante dans les ratios sparnassiens.
Non, mais attendez, je vais y venir.
Il y a une constante depuis X années.
Je vais y venir.
Non, moi, on va intervenir aussi.
Sur l'évolution des ratios, l'évolution des ratios, elle prend en considération évidemment la baisse du nombre d'habitants d'Épernay, et donc chaque année, ils évoluent en fonction de l'évolution de ce chiffre. Je rappelle quand même vous avez commencé là-dessus, Monsieur Anger, sur la baisse de la population d'Épernay. La ville d'Épernay n'est pas la seule concernée par cette baisse. Et je vois qu'on parle de résultats de foot en même temps. Si ça ne vous intéresse pas, 2-1 pour qui ?
2-1 pour Reims.
Ah bon. Donc la population... Je vois que vous êtes plus préoccupé par l'évolution du score à Reims que par le budget des
Pyrénées. Là, son chiffre est bon.
C'est Angers.
Oui. Malheureusement, Angers est encore battu.
Tu perds.
Donc, j'en perds le fil de mon discours. Donc, effectivement, les chiffres des ratios baissent. La population elle-même a baissé. Vous savez comme moi qu'Épernay n'est pas la seule ville qui a perdu des habitants ces dernières années. Ça évolue globalement à la baisse au niveau des villes, préfectures ou sous-préfectures de l'ex-Champagne-Ardenne. Et vous savez également que nous avons à Épernay des caractéristiques physiques et géographiques qui expliquent aussi cette baisse. À savoir que quand on compare la physionomie de nos villes entre Châlons, Reims et Épernay, pour ne citer que ces trois villes, vous avez deux villes qui sont dans une plaine qui ont des centaines et des centaines d'hectares à leur disposition pour s'étendre, et vous avez de l'autre côté une ville qui est coincée entre des coteaux viticoles dont le prix de vente ou d'aménagement est de plus en plus cher, avec une plaine inondable au nord, et une ville qui est quasiment urbanisée à 100%, puisqu'il n'est évidemment pas question de mordre sur le vignoble, comme il n'est pas question de mordre sur les 1000 hectares de forêt de la ville d'Épernay. Donc on a très objectif... Comment ? Non mais attendez, je suis d'accord, mais il faut plus de logements pour loger aujourd'hui 25 000 habitants qu'il en fallait pour en loger 30 000 il y a 30 ans. Parce que vous savez ce que c'est que les phénomènes de décohabitation, vous savez que les divorces sont aujourd'hui courants, que nombreuses familles se séparent et qu'il faut aujourd'hui plus d'un logement pour loger une seule famille, alors qu'autrefois, une famille égale un logement, c'était les normes de l'INSEE. Donc n'importe quel spécialiste de l'INSEE pourra vous confirmer qu'il faut aujourd'hui beaucoup plus de logements pour loger moins d'habitants. Donc ceci explique effectivement, ce sont principalement les communes situées alentour qui ont profité de la croissance démographique que la ville d'Épernay aurait pu avoir si elle avait eu cette disponibilité foncière. J'en veux pour preuve le succès des lotissements situés tout autour d'Épernay, qui se vendent comme des petits pains, pour la simple et bonne raison qu'il y a du terrain à perte de vue, il y a du terrain qui n'est pas cher parce qu'il n'est pas en appellation, et il est très facile de construire sur des terrains plats, alors que sur des terrains situés sur des coteaux, c'est beaucoup plus compliqué. Mais enfin, on ne va pas revenir sur ce débat, puisqu'on pourrait y passer la nuit. Concernant nos ratios, effectivement, nos recettes par habitant sont supérieures à Épernay par rapport à ce qu'elles sont ailleurs. La ville est plus riche à Épernay que l'est la moyenne des villes de la strate, je vous le confirme. C'est ce qui explique également que nos dépenses d'équipement ou la charge de la dette soient plus importantes à Épernay qu'ailleurs, pour la simple et bonne raison que quand on a des moyens plus importants, on peut se permettre un niveau d'équipement plus important et donc un niveau de dette supérieur. Donc de ce point de vue, je ne vais pas revenir sur les évolutions de la dette ces dernières années parce qu'elle est assez spectaculaire et constante. On en parle à chaque conseil. Elle est en diminution régulière. Cette diminution s'est stabilisée depuis quelques années, je ne ferai pas évidemment plaisir à Marc Lefebvre en disant ça, non pas parce qu'une dette, on ne la baisse pas pour le plaisir de la baisser. Une dette, elle sert à financer des investissements. Attendez, monsieur Lefebvre, je ne vous ai pas interrompu. Une dette, elle sert à financer des équipements. Si vous n'avez plus de recettes de fonctionnement, comme on en avait, en l'occurrence, 9 millions de moins depuis 2007 de recettes au titre des dotations, si vous n'avez plus une taxe professionnelle qui évoluait comme elle évolue à Épernay, vous êtes bien obligé de recourir davantage à l'emprunt pour compenser la perte des recettes que vous aviez autrefois venant de la taxe professionnelle, venant des dotations qui étaient plus florissantes hier qu'aujourd'hui. Alors, ou effectivement, vous ne compensez pas par un investissement ou un recours à la dette, et à ce moment-là, vous investissez chaque année de moins en moins, et les rues se dégradent, et les écoles se dégradent, et le service public se dégrade, etc., etc., etc. Ou alors, vous stoppez la baisse de la dette pour la maintenir à un niveau vous permettant à la fois de continuer à avoir vos intérêts financiers diminués, de ne pas voir la dette augmenter, mais de stabiliser votre dette pour maintenir un niveau d'équipement suffisant. C'est ce que nous faisons depuis 4 ou 5 ans, depuis que nous subissons notamment des baisses importantes de nos recettes. Sinon, effectivement, la principale conséquence serait, comme ça se passe en France actuellement dans la plupart des communes, c'est-à-dire que les baisses des dotations de l'État ont pour effet ultime de baisser le niveau d'équipement des communes. Il a baissé de 20% ce niveau d'équipement depuis 3 ans. Il baissera encore dans les années qui viennent. Nous arrivons, nous, à le maintenir parce que nous avons décidé de ne plus baisser le niveau de la dette. Il est tout à fait supportable actuellement. Le temps de remboursement de notre dette est tout à fait correct. Qui plus est, la qualité de notre dette est tout à fait remarquable, ce qui fait qu'il n'y a aucun risque à disposer de la dette que nous avons. Et je vous annonce tout de suite qu'il n'est pas dans nos intentions de diminuer la dette dans les années qui viennent. Nous avons des équipements importants à financer dans le domaine de la voirie, dans le domaine du musée et de la culture notamment, et que si nous continuons à baisser notre dette, nous serons, comme vous le souhaitez, nous ne pourrons plus investir et nous priverons les Sparnassiens d'équipements qui nous semblent fondamentaux pour l'avenir de la ville. Donc, ça, je l'ai déjà dit, expliqué depuis 3-4 ans, ça, M. Lefebvre. Donc, effectivement, et vous remarquez sur les chiffres que depuis 4 ans à peu près, 3 ou 4 ans, la dette est parfaitement, l'encours de la dette est parfaitement identique à quelques décimales près. Donc, là-dessus, il y a de la constance dans notre politique et il y a la volonté à la fois de diminuer nos charges d'intérêt. Et là-dessus, le service des finances et le service contrôle de gestion font un travail tout à fait remarquable. Et je voudrais saluer également le travail de Christine Mazzi, qui passe beaucoup de temps avec notre service sur ces questions ô combien techniques et difficiles. Et en même temps, nous maintenons évidemment un niveau d'investissement important parce que c'est la condition pour continuer à offrir aux Sparnassiens une ville bien équipée. Alors, je vous en prie.
Inférieur à Épernay par rapport aux villes de la même strate. Vous dites le contraire, là.
Mais c'est pas vrai.
Enfin, ben, prenez le chiffre de la page 3. Hein.
Il faut prendre en considération. Attendez, si. Trouvez-moi, monsieur Lefebvre, trouvez-moi une ville en France de 25 000 habitants qui dispose des équipements que nous avons à Épernay. Je cumule évidemment dans ces équipements les équipements de la communauté de communes installée à Épernay et ceux de la ville. Trouvez-moi une seule ville. Je vous mets au défi d'en trouver. Il n'y en a pas. Pour la simple et bonne raison que notre ville a, à l'exception d'une patinoire que nous n'avons pas et que nous n'avons pas l'intention d'avoir, nous avons des équipements de catégorie exceptionnelle. Je prends l'exemple du Millésium, je prends l'exemple de Buléo. Nous avons un théâtre tout à fait remarquable, nous avons 2 médiathèques, nous avons des écoles en nombre suffisant, nous avons des équipements, des équipements accueillant les services publics qui sont dans parfait état. Nous avons franchement une maison de la vie associative hors norme et tout à fait exceptionnelle. Je rappellerai quand même les propos de Jean-Paul Bachy lorsqu'il a inauguré la maison de la vie associative, où il a lui-même dit qu'il n'avait, je crois pouvoir citer ses paroles, rarement vu des équipements de cette qualité pendant tout le temps où il a été en région Champagne-Ardenne. Donc comment pouvez-vous dire qu'on a un niveau d'équipement inférieur aux autres alors que nous avons tout, là où les autres, je ne vais pas dire n'ont rien, mais ont beaucoup moins que nous. Donc, je pense qu'il faut, sortir des discours politiciens, encore une fois. C'est vrai qu'il vous faut, et c'est un exercice difficile, mais c'est une figure imposée pour vous, il vous faut à chaque fois justifier le fait que vous n'allez pas voter nos budgets. J'observe quand même que sur le fond de notre politique, j'ai entendu chez les uns, chez les autres, un certain nombre de compliments à peine voilés, considérant qu'effectivement des progrès avaient été faits dans un certain nombre de domaines. Exemple, le patrimoine scolaire. Oh, il n'y a pas que des lapsus, monsieur Richard. Je sais bien. Mais on a une ville qui se porte plutôt convenablement. Elle bénéficie, c'est vrai, d'une conjoncture économique liée aux champagnes qui est positive. Je voudrais rappeler à monsieur Angers, même si j'ai perdu tout espoir de le convaincre en la matière, que parler de diversité économique, c'est bien, mais ça signifie qu'il n'y a pas de diversité économique. Or, il y a une grande diversité économique sur notre territoire. Je vous inviterai la fois prochaine à visiter quelques entreprises avec moi et vous verrez qu'on ne produit pas que du champagne à Épernay. Vous verrez qu'on a dans le domaine automobile, je pense aux camions de chez Legras, notamment, qui sont en train d'exploser aujourd'hui, enfin exploser au bon sens du terme. Enfin, évidemment, je pense à un certain nombre d'industries, je pense à Virac, je pense à des entreprises dans le domaine du bois qui ont d'ailleurs su se reconvertir intelligemment dans l'aluminium en l'occurrence. J'ai rencontré il y a quelques jours les dirigeants de Pastural qui se félicitent d'avoir fait le choix de passer du bois à l'aluminium, sinon l'entreprise Pastural n'existerait peut-être plus sur le territoire d'Épernay. On a des industriels, des artisans, des petites entreprises qui fonctionnent très bien, qui sont en nombre extrêmement important et qui font, si vous voulez, que notre ville a une situation économique plutôt enviable quand on se place à l'échelle de la grande région Grand Est, je vais l'appeler comme ça, c'est plus rapide, qui, effectivement, cette situation économique plutôt enviable, cache aussi des contrastes. Je vous rejoins sur ce point. C'est vrai que d'un quartier à l'autre, on n'a pas le même taux de chômage, mais ça me semble normal qu'on ait des différences importantes, puisque dans certains quartiers, vous reprenez toujours l'exemple du quartier de Bernon, dans le quartier de Bernon, vous savez pertinemment qu'on a 100% de logement social. Donc évidemment, dans un quartier où se concentre le logement social, on a forcément, puisqu'on a affaire à des personnes qui sont par définition plus modestes que d'autres, plus en difficulté que d'autres, on a forcément des taux de chômage plus importants. Néanmoins, je vous renvoie aux chiffres de l'INSEE qui, là encore, et de Pôle emploi en la matière. Le seul bassin d'emploi, les seuls bassins d'emploi qui peuvent rivaliser avec les taux de chômage alsaciens, c'est le bassin d'Épernay et c'est le bassin, c'est un ou deux bassins de Haute-Marne pour des raisons différentes liées à la dévitalisation de ces bassins. Donc je pense qu'on n'a pas à rougir de nos performances économiques. On ne peut aujourd'hui même que se féliciter de la manière dont l'économie du champagne est dirigée. Elle fait beaucoup d'envieux, en tout cas cette économie du champagne et ses dirigeants du champagne savent qu'on est à leur côté. Ça ne signifie pas qu'évidemment, je vous vois déjà venir, qu'on privilégie les riches contre les pauvres. J'en veux pour preuve les investissements les plus importants qui ont été réalisés depuis 30 ans l'ont été dans les quartiers d'habitat social. Le quartier de Bernon, évidemment, arrive en tête. Nous venons de terminer toutes les voiries du quartier Vigne-Blanche avec l'opération de la rue de Bourgogne qui vient de se terminer et la rue d'Anjou, qui n'est pas tout à fait... l'allée d'Artois, qui n'est pas tout à fait terminée, mais qui sera terminée dans quelques semaines. Donc, on travaille pour l'ensemble de la communauté sparnassienne. Il n'y a pas un quartier qui est favorisé par rapport à un autre. Et en tout état de cause, ça se ressent dans l'atmosphère de notre ville qui, loin d'être une ville coupée en deux entre le riche et les pauvres, est une ville plutôt harmonieuse, même si, effectivement, il y a des situations patrimoniales qui sont très différentes d'un quartier à l'autre. Et ça, c'est aussi le produit de l'histoire. Un mot sur la TOM. La TOM, c'est la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. On vous a présenté de façon assez complète cette taxe qui va être instituée par la communauté de communes. Donc là, on entre sur un débat qui concerne évidemment la communauté de communes. Vous savez comme moi que nous sommes aujourd'hui, à ce jour, dans une situation d'anomalie totale par rapport à toutes les autres communautés de France, qu'elles soient de gauche ou de droite, à savoir que partout la TOM existe, sauf à Épernay. 94% des communautés de communes et communautés d'agglomération ont la TOM et l'utilisent. Nous continuons à faire financer par les impôts une taxe qui, normalement, est une taxe affectée à l'élimination et à la gestion des déchets. Je précise quand même, parce que ça n'a pas été dit, que la création de la TOM va correspondre exactement au coût du service des déchets pour la communauté de communes et elle va s'accompagner d'une baisse identique, enfin comparable en volume évidemment, des taux d'imposition de la communauté de communes. C'est-à-dire que les recettes qu'on aura d'un côté, on ne les aura plus d'un autre. Ce n'est pas une augmentation comme l'avait fait la majorité socialiste de la ville de Reims, ce qui lui a sûrement coûté les élections de 2014. Chez nous, la TOM va augmenter, les impôts intercommunaux diminueront à due proportion et à l'euro. C'est la politique que nous avons choisie. Ça se traduira évidemment par des différences et notamment des augmentations mineures pour des familles qui, effectivement, étaient exonérées de taxes d'habitation jusqu'ici. Mais je précise quand même que cette taxe a été créée par le législateur et personne ne l'a jamais remise en question pour gérer le service public de l'enlèvement des déchets, que tout le monde produit des déchets et qu'il est normal que tout le monde paye la taxe sur les déchets, même si, évidemment, les familles les plus modestes paieront moins proportionnellement que les familles qui auront la chance de vivre dans des logements extrêmement spacieux, puisque c'est sur la base de la taxe foncière sur le foncier bâti que sera assise cette taxe. On n'engagera pas un débat là-dessus, parce que, d'abord, on pourra le refaire dans une prochaine séance, puisque, à ce jour, la TOM est toujours à 0% à Épernay. C'est au mois de mars, et nous aurons un conseil municipal et un conseil communautaire à ce moment-là, que le taux de la TOM sera fixé. Je reviens sur les différentes questions qui ont été évoquées. Vous avez donc, M. Lefebvre, sur le seul motif qu'en apparence, pour vous, la subvention du CCAS baisse, vous parlez d'une ville moins solidaire. J'attends que vous me démontriez en quoi l'effort de la ville en direction des publics les plus modestes a diminué. Il a augmenté au contraire. Nous avons déployé, aussi bien vis-à-vis des personnes âgées que vis-à-vis de la petite enfance, que vis-à-vis des publics en difficulté, une action croissante. Je précise également que cette action nous amène, et là je réponds en partie à une des réflexions du Front National, à accueillir à Épernay non pas des clandestins, mais des personnes qui ont le statut de réfugiés. Si elles ont le statut de réfugiés, c'est parce que l'État français leur a conféré ce statut de réfugiés, et c'est parce que ces personnes sont inquiétées dans les pays où ils étaient préalablement. Donc nous accueillons des réfugiés, nous prenons part à l'effort d'accueil des réfugiés comme beaucoup de villes en France, et je trouve qu'il est tout à fait normal qu'une ville comme la nôtre le fasse, a fortiori lorsque cet effort est partagé par d'autres villes. Et lors de ma dernière réunion avec le préfet, j'ai tenu évidemment à m'assurer que la ville d'Épernay, qui peut-être proportionnellement aujourd'hui produit l'effort le plus important rapporté par son nombre d'habitants en direction des réfugiés, que la ville soit rassurée par le fait qu'effectivement cet effort il est également supporté par d'autres villes de notre département ou de notre région. Vous avez parlé, je laisserai peut-être à Christine le soin de vous parler des transferts de personnel, parce qu'on a parlé de plusieurs chiffres, et je pense que Christine est beaucoup plus compétente que moi pour évoquer ces questions. Sur la mutualisation, on ne peut pas à la fois dire oui à la mutualisation et non à la diminution des dépenses de personnel. Il faut être sérieux. Si la mutualisation a été voulue, c'est par votre gouvernement. Tous les textes du gouvernement aujourd'hui nous invitent. Didier Migaud en tête, il n'est pas membre du gouvernement, mais je crois qu'il est de votre obédience socialiste. Il est président de la Chambre, de la Cour des comptes. Les discours de tous les ministres, à commencer par l'actuel sur les collectivités locales, invitent les communes et communautés, la sphère publique de manière générale, à mutualiser ses emplois, ce qui signifie, quand on n'utilise pas la langue de bois, partager les emplois entre différents niveaux de collectivités pour précisément en avoir moins. Donc on ne peut pas faire, comme vous le dites, oui à la mutualisation, mais non à la suppression des emplois, parce que c'est totalement contraire.
Monsieur
la mutualisation a pour objectif de réduire le nombre d'emplois dans la sphère publique. C'est reconnu par tout le monde aujourd'hui. C'est demandé par le gouvernement actuel aux collectivités locales. Et je suis même presque certain que dans quelques temps, dans quelques mois ou dans quelques années, on viendra nous juger, nous collectivités, sur nos taux de mutualisation, et que les communes ou les intercommunalités qui n'auront pas assez mutualisé seront sanctionnées par des baisses supplémentaires de dotations et, au contraire, seront considérées comme vertueux ceux qui auront diminué le nombre de leurs agents. Donc, bon, c'est la politique qui est voulue par les pouvoirs publics. Nous l'appliquons avec, avec discernement. Nous ne le faisons pas de façon aveugle et nous sommes soucieux du sort des agents. Et, à ma connaissance, aucun agent, ni municipal, ni communautaire, n'a eu à se plaindre de cette orientation. Il reste des difficultés parfois personnelles à régler sur des questions de statut, sur des rigidités qui nous empêchent d'accompagner ces agents par un système de primes plus performant et plus en rapport avec le travail qu'effectuent ces personnes. Pour autant, c'est une tendance qu'aucune collectivité en France n'écarte aujourd'hui.
Je termine.
Vous avez ensuite dit une politique moins environnementale, et je crois que cette critique a été effectivement produite également par Monsieur Angers. Alors, c'est vrai que quand on regarde les chiffres des budgets pris par destination ou par fonction, les crédits affectés à l'environnement ne sont pas forcément les plus importants. Et pour cause. Quand on parle de travail sur la rénovation thermique des bâtiments, ça ne figure pas dans l'environnement, ça figure dans le budget des services techniques. Quand on parle de recourir l'introduction de produits bio dans les cantines, ça ne figure pas dans le budget de l'environnement, ça figure dans le budget de l'éducation. Quand on parle de réduire les intrants, les produits phytosanitaires, remplacés par des produits ou des techniques plus écologiques, ça figure dans le budget espace vert, ça ne figure pas dans le budget de l'environnement. Vous savez comme moi que l'environnement et le développement durable sont des compétences transversales qui donc apparaissent un petit peu dans toutes les directions. Et effectivement, il faudrait pouvoir, mais ça prendrait sûrement un peu de temps, mais je pense que ce serait utile, reconstituer un budget environnement en retirant à tous les autres secteurs, la part environnementale qui est voulue par la ville d'Épernay, qui est soutenue par, j'allais dire, l'équipe du développement durable avec Jonathan Rodriguez, qui font un travail remarquable en la matière, et qui, en plus, vont nous permettre, à nous, mais à tout le territoire entourant Épernay, d'aller chercher des volumes de subventions inédits jusqu'ici, puisque nous avons récemment récupéré pour le territoire du pays d'Épernay 500 000 euros de subventions au titre des territoires à énergie positive, que cette première enveloppe de 500 000 euros va très certainement s'accompagner d'une deuxième enveloppe qui nous permet d'investir sur des véhicules. Mais là encore, quand on investit sur des véhicules, à la limite, ça apparaît dans le budget des services techniques et pas dans le budget environnement. Donc il y a une vraie démarche environnementale qui est engagée ici. Il y a des actions que nous menons d'ailleurs en concertation avec le comité Champagne, parce que nous savons qu'il y a aussi des exigences en la matière et ce n'est pas à vous que je vais la prendre. Il nous reste des marges de manœuvre extrêmement importantes. Mais là encore, je ne pense pas, Monsieur Angers, que la solution soit une ville sans voiture. Je pense que ça a été testé autrefois, ça ne fonctionne pas, ou ça se traduit par une perte de commerce et une perte d'emploi. Moi, je crois à la voiture en centre-ville, mais à la voiture moins polluante. Je crois à une meilleure maîtrise du domaine public, et je crois indispensable qu'un parking comme le parking centre-ville, ex-parking des Arcades, puisse jouer un rôle extrêmement important dans la dynamisation du centre-ville sans que pour autant nous soyons en contradiction avec les principes du développement durable. Je rappelle que dans ce parking, il y aura des possibilités de recharge pour les véhicules électriques, qu'on a des tarifications sur le parking avantageuses pour les véhicules électriques, qu'on fait des efforts conséquents en la matière. Il est sûr qu'on pourrait progresser en la matière et j'observe que, par exemple, sur l'élargissement de la communauté de communes à la secteur d'AI, qui serait une avancée importante sur l'environnement puisque nos transports publics pourraient aller à AI, vous tenez une position qui est curieusement inverse. Donc, si vous voulez, je pense qu'il faut être cohérent. On essaie de l'être. On n'est pas parfait aujourd'hui. Il y a des progrès importants qui sont faits et il y a surtout une détermination à aller plus loin. Il se trouve qu'en plus, le développement durable devient ma compétence au niveau de la région et je veillerai évidemment à être exemplaire à la matière. Et je ne doute pas que vous saurez être à mes côtés un aiguillon suffisamment persuasif pour que nous continuions sur la voie de ce progrès. Je vais maintenant, donc j'ai parlé de mutualisation, venir sur les questions du Front National. Je reviendrai sur d'autres questions ensuite. Alors, sur ce qu'a dit M. Durançois, il se trouve que la baisse de la DGF, ça ne résulte pas du diktat des élites européennes, pour reprendre vos expressions. C'est un choix strictement national qui a été fait par l'État français, autrefois géré par la droite, aujourd'hui géré par la gauche, au détriment des collectivités locales. C'est tellement facile de faire des économies sur le dos des collectivités locales plutôt que de faire des économies sur son propre budget. J'en veux pour preuve le fait que tous les autres secteurs des collectivités locales dans les autres pays européens ne se portent pas si mal que ça. C'est donc bien un phénomène, à mon sens, strictement français. Quand vous évoquez l'accueil en grande pompe de clandestins dans notre ville, bon, c'est une formule qui vous est familière au Front National. Évidemment, je ne partage pas ce point de vue, je me suis expliqué sur ce point. Quant au Salman Azar, il mène une politique que la ville soutient, depuis de nombreuses années, ce qui n'empêche pas l'adjoint à la culture d'être très attentif à la situation du Salman Azar. Nous travaillons régulièrement avec, et puisque vous évoquez le travail en commission, je rappelle, mais Christian Demongin le sait, que, évidemment, nous avons la possibilité, et ça vaut pour les autres commissions, en commission d'auditionner les représentants d'organismes avec lesquels nous travaillons. Le Salman Azar, ça a déjà été fait les dernières. S'il faut effectivement chaque année venir présenter la situation du Salman Azar, sa programmation en commission, j'y suis à 100% favorable. Ça ne peut qu'améliorer l'information des uns et des autres. Et je l'espère, vous persuader que notre politique n'est pas si mauvaise que ça en la matière. Sur la baisse du budget CCAS, j'ai répondu. À l'image que vous donnez de votre parti, qui, selon vous, ne cherche pas à diviser, quand on regarde la rhétorique et les discours du Front National, je suis désolé de faire cette parenthèse sur la politique nationale. Si le Front National ne cherche pas à diviser, que cherche-t-il à faire? Il passe son temps à remonter les uns contre les autres, à commencer au sein de la communauté nationale. Donc je pense que là-dessus, Il ne suffit pas de dire que le Front national ne cherche pas à diviser. Il serait peut-être temps aussi, de votre côté, d'avoir un discours un peu plus rassembleur, un peu plus solidaire, un peu plus fraternel. Je rappelle que la fraternité est une valeur de notre République et qu'on se doit, quand on est dans un parti qui se veut républicain, d'appliquer dans son discours, dans ses actes, ces principes de liberté, d'égalité et de fraternité, ce qui est loin d'être le cas du Front national. Comment ? Non, je ne dis pas, mettre en garde, si ce n'est que votre discours, là je pense que bon nombre de membres de l'Assemblée admettront que dénoncer la submersion migratoire, comme c'était le fait pendant la campagne des régionales, alors qu'on sait très bien que ce scrutin n'avait aucun rapport avec les phénomènes migratoires, c'est quand même chercher le bouc émissaire chez les autres, c'est chez les étrangers, c'est les Européens, c'est tout le monde, sauf toujours les Français qui n'ont évidemment aucune responsabilité dans ce qui leur arrive. Je reviens un petit peu sur quelques questions qu'a évoquées monsieur Angers à travers ses ratios, parce qu'il y avait des chiffres qui étaient assez importants. Vous avez évoqué notamment budget fêtes et cérémonies. Dans ce budget fêtes et cérémonies, il n'y a pas que des dépenses de communication. Par exemple, ce qui explique notamment l'augmentation de 10 000 à 26 000 euros au cours de cette année. On a, par exemple, la location de la plateforme du Millésium pour l'installation de la fête foraine et l'installation des habitations des forains. Autrefois, ces forains étaient installés par Square Raoul Chandon, et désormais, ils sont loués. Nous louons un espace au Millésium et nous payons au Millésium une somme pour louer ce terrain. Donc, évidemment, ça apparaît dans les fêtes et cérémonies. Donc, fêtes et cérémonies, ça n'est pas, j'allais dire, les petits fours du maire et le champagne du maire, contrairement à ce qu'on dit trop souvent. Il y a toute une série de manifestations dedans. Un exemple, la fête et cérémonies, la fête de la bière émarge au titre des fêtes et cérémonies. Les événements publics émargent à ce titre-là. Et là, en l'occurrence, l'augmentation est liée notamment au crédit lié à l'allocation de la plateforme du Millésium. Je ne reviens pas sur le développement durable, j'en ai parlé pour l'essentiel, mais si Jonathan veut poursuivre, il n'y a pas de difficulté. Monsieur Durand-Soy, vous avez parlé de la DSI, qui est la dotation spéciale pour les instituteurs. Elle est effectivement en chute libre cette année, mais c'est tout simplement parce que nous avons de moins en moins d'instituteurs et de plus en plus de professeurs des écoles. Et donc, il nous reste aujourd'hui, au niveau de nos logements et des crédits affectés à cette DSI, le nombre d'instituteurs passe de 4 à 1 à Épernay parce que tous ont changé de statut et donc la dotation que nous versait l'État en la matière chute à due proportion. Donc c'est bien la seule dotation pour laquelle on peut consentir à la baisse sans discuter. Il a été évoqué également le problème du chauffage. Alors effectivement, ce qui est trompeur dans les budgets quand nous votons des budgets de chauffage, c'est que nous votons des budgets primitifs, donc prévisionnels, et nous faisons chaque année des réactualisations en fonction de l'évolution du contexte. Donc, vous pouvez voir apparaître, comme c'est le cas cette année, une augmentation du budget chauffage. Je vous renvoie néanmoins à la délibération qu'on a votée au dernier conseil municipal, où on a, au contraire, enregistré une baisse du R1, donc consommation, le prix du chauffage, qui est passé de 40 euros à 38 euros le mégawatt-heure. Donc, là-dessus, on est contraint de prévoir des budgets en se basant sur des hypothèses qui ne sont pas forcément des hypothèses optimistes, mais ça ne correspond pas aux sommes qui seront appelées en fin de compte, puisque, évidemment, les sommes il y a des provisions de charges qui sont demandées, et à la fin de l'année, en fonction du niveau réel du coût d'achat du gaz, qu'on ne connaît pas à ce jour, on le connaît pour aujourd'hui, mais on ne connaît pas le prix du gaz dans 3 semaines, dans 3 mois ou dans 6 mois, donc on est bien obligé d'appeler des sommes et d'éviter de nous trouver dans une situation où on n'aurait pas assez appelé de sommes dans nos budgets. Il y a évidemment une rectification qui est faite en fin d'année, et sachez que notamment pour l'année 2015, le prix du mégawattheure a baissé, et j'espère évidemment qu'il baissera, ce qui voudra dire que le marché du gaz continue d'être relativement à l'avantage des consommateurs, comme c'est le cas depuis quelques temps. Bon, les ratios d'équipement, je ne les reprends pas parce que j'en ai parlé tout à l'heure. Le budget camping est effectivement une baisse importante sur le budget camping, lié au fait simplement qu'on avait des travaux importants d'investissement et d'aménagement qui ont été faits en 2014 et 2015. Ces travaux étant terminés, ou la partie n'étant pas terminée, étant en report, il n'y a pas de nécessité de revoter un budget d'investissement important cette année. Donc effectivement, ça fait une baisse spectaculaire en apparence, mais si nous baissons aujourd'hui notre crédit d'investissement sur le camping, c'est parce que nous avons d'une part des reports à dépenser, et deuxièmement parce que les travaux ont été réalisés et n'ont pas vocation à être réalisés, évidemment, tous les ans. Voilà, je pense que j'ai répondu à la plupart des questions. Un dernier mot peut-être sur le budget voirie. Sur le budget, je vais revenir. Sur le budget voirie, il est bien de 2 120 000 euros pour cette année. J'ai indiqué tout à l'heure qu'il serait voté en deux fois. Il serait voté dans mon... Vous n'avez pas entendu mon discours ou pas écouté mon discours, Monsieur Lefebvre. 1,5 million est voté là et 700 000 euros seront votés lors de l'affectation du résultat en mars 2016, ce qui nous permettra bien, au cours de l'année civile 2016, de faire pour 2 120 000 euros de travaux. Donc c'est une année tout à fait conséquente et vous avez eu tout à l'heure le nom. Enfin, dernier point, c'est par là que vous aviez commencé, Monsieur Angers, concernant les dépenses exceptionnelles ou les postes budgétaires sur lesquels il y a effectivement de l'exceptionnel. On a par exemple sur le poste 678 effectivement une dépense exceptionnelle concernant l'indemnisation de Plurial Novilia suite à la vente du palais de justice. Je rappelle que le palais de justice nous appartenait en partie et que pour une partie du bâtiment, il avait été mis à disposition ou loué sur... par un bail emphytéotique, loué à Plurial Novilia qui avait aménagé des appartements. Dans la mesure où ces appartements vont disparaître, la ville doit rembourser la part d'investissement qui avait été faite par Plurial Novilia, qui s'élève à ce jour à 512 000 euros, que la ville va donc rembourser à Plurial Novilia en déduction du prix de vente du bâtiment. Ce qui fait que pour nous, on vend le bâtiment... J'ai plus, comment ? Oui. 700, moins 512 000 euros. Donc tout ça est parfaitement clair. On a par ailleurs sur d'autres postes des dépenses. Pardon ? Oui. Oui, mais on pourra vous donner les comptes qui nous ont été transmis par Plurial Novilia, qui évidemment avait emprunté sur 30 ans pour faire ses logements et avait, si vous voulez, transformé ces locaux qui, pour certains d'entre eux, étaient bureaux, des anciens bureaux de gendarmes en logements. C'est des investissements conséquents qui avaient été réalisés à l'époque. Et tout a été vu de manière comptable pour qu'effectivement, Plurial Novilia, qui accepte de nous de partir de ces logements pour lesquels il disposait pourtant d'un bail emphytéotique, demande l'indemnisation au regard de ses comptes en la matière. Et le protocole passera effectivement en conseil très prochainement, puisque ça doit figurer à l'ordre du jour d'un des prochains conseils municipaux. Dernier point, quand on évoquait effectivement des dépenses ou recettes exceptionnelles, on a effectivement sur le marché d'entretien qui était confié à la régie de quartier des baisses importantes. On a également des dépenses qui... donc ces dépenses diminuent compte tenu notamment de la diminution du périmètre d'intervention sur les quartiers faisant l'objet d'opérations de renouvellement urbain. Donc on a effectivement parfois des comptes comme ça qui sont utilisés pour tenir compte de diminution ou d'augmentation. Il n'y a strictement aucune volonté de dissimuler quoi que ce soit. Je rappelle que le service finance est à votre disposition quand vous souhaitez avoir des éclaircissements sur telle ou telle ligne de manière plus précise, que la commission des finances a cet intérêt-là aussi de pouvoir vous permettre de poser des questions. Et qu'en tout état de cause, les inscriptions budgétaires qui sont faites par le service finance et contrôle de gestion sont évidemment extrêmement précises, extrêmement contraignantes, que nous avons un receveur municipal qui veille à la bonne utilisation des bonnes lignes et que quand parfois nous mettons sur certains comptes d'attente ou sur des comptes de dépenses ou de recettes exceptionnelles certaines sommes, c'est parce que légalement nous sommes tenus de le faire. On aimerait bien parfois pouvoir mettre le détail à côté, sauf que la nomenclature budgétaire ne prévoit pas nécessairement la place pour le faire. En tout cas, nos services sont à votre disposition pour vous répondre sur tous ces éléments-là. Voilà, j'ai à peu près répondu à tout le monde, je pense. Monsieur...
Deux questions auxquelles vous n'avez pas répondu, qui étaient des questions bien précises. Verse-t-on encore des indemnités au directeur de l'Office de tourisme? Et si oui, combien?
Oui.
Et la deuxième question sur comment... sur quels critères avez-vous revalorisé l'utilisation des équipements collectifs, des équipements sportifs, puisque maintenant on en vient sur la subvention de 3 millions et quelques à 1 012 000.
Alors, je vais laisser peut-être Christine Mazzi déjà répondre sur les questions, parce que j'ai oublié de lui donner la parole. S'agissant du directeur de l'Office du tourisme, sa situation n'a pas changé, puisqu'il a toujours des missions municipales d'un côté et des missions remplies pour le compte de l'Office du tourisme de l'autre. On avait évoqué cette question lors de son recrutement. Il continue d'être rémunéré en partie par la ville pour la simple et bonne raison que, par exemple, sur la candidature station de tourisme, c'est un dossier ville, c'est pas un dossier Office du tourisme, puisque c'est un dossier qui se limite à la ville d'Épernay. Sur un certain nombre de sujets, il est consulté et amené à effectuer des démarches pour le compte de la seule ville et pas de l'Office du tourisme. Donc, je pourrais vous donner la somme, je ne l'ai plus en tête, mais si on peut me la glisser au coin de l'oreille, je vous la donnerai d'ici la fin de la séance. Monsieur Angers, vous avez un point sur ce...
Oui, il y a un point sur lequel vous n'avez pas répondu, sur le nombre de personnes affectées à votre communication.
Alors, il est toujours de 7, il est constant, il est toujours de 7. Il n'y a pas un agent de plus, pas un agent de moins. Il y a un changement qui va intervenir puisque Noémie, je ne sais jamais son nom, mais Noémie Vigier vient de nous quitter et nous allons recruter un agent venant de la commune de Dizy pour la remplacer, mais on reste sur le nombre équivalent. Christine.
Oui, donc avant d'intervenir sur le personnel, je voulais simplement rappeler qu'au niveau du calcul des ratios, et la boucle sera bouclée, c'est que M. Lefebvre s'interrogeait beaucoup sur les dépenses d'équipement par rapport à la population. Dans ce calcul de ratio, ne sont comptabilisées que les dépenses d'équipement du budget principal ville. Si on y intègre les dépenses d'équipement des budgets annexes que sont le parking et que sont les cellules commerciales de Bernon, ce ratio qui est de 221 passe à 325. Donc il faut voir quand on compare des ratios, savoir ce qui est comptabilisé dans ce calcul. Voilà. Tout dépend si les budgets sont annexes ou pas, après. Voilà. Voilà. Donc, en plus, les strates varient. Alors, en ce qui concerne la partie des effectifs, donc, votre question posée concernait le transfert des effectifs, c'est ça, de la ville à la communauté de communes. Donc, il y a effectivement 14 agents villes qui ont été transférés à la communauté de communes. Donc, ces agents font partie des services qui ont été mutualisés, à savoir le contrôle de gestion, le service finance, le service juridique, le service achat des SP et le service des marchés publics.
Et donc la différence entre 19 postes qui disparaissent et 14 transférés, c'est quoi exactement ?
Alors 14 transférés et 5 qui n'ont pas été renouvelés. Donc c'est-à-dire des départs en retraite non renouvelés, oui.
5,
oui.
Pierre,
pour répondre à ta question, Marc, la valorisation des installations donc, prend en compte d'une part toutes les clubs, associations sportives de la ville d'Épernay qui bénéficient d'une mise à disposition gracieuse pour 972 347 euros, auxquels s'ajoutent des mises à disposition, par exemple, pour la maison pour tous, pour la police municipale, pour la ferme de l'hôpital, pour environ 50 000 euros. Donc tu as le total que tu as annoncé tout à l'heure.
Conseil agent, vous avez dit qu'il y avait une revalorisation.
Ben, les tarifs ont été revotés, je n'ai pas en tête exactement le tarif, si je les ai là. T'as 22,50, ça va de 38,50, 22,50 en fonction des salles ou salles annexes.
Magali Carbonel et puis ensuite monsieur.
Oui, je vais intervenir à propos de la crise des écoles parce que j'ai entendu, vous avez remarqué la diminution de la subvention de la ville. Alors effectivement, la subvention de la ville a diminué, ça s'explique de manière tout à fait arithmétique, mais néanmoins le budget de la Caisse des écoles reste le même. Et je voudrais souligner que nous ne laissons aucun enfant sur le bord de la route, surtout s'il fait partie de la géographie prioritaire, parce que nous sommes très soucieux, nous aussi, de la fracture sociale et aussi de la fracture numérique. C'est la raison pour laquelle toutes les écoles sont fortement équipées en outils informatiques. Voilà, donc j'ai expliqué, je crois, la dernière fois que cette diminution de la subvention de la ville s'expliquait par le fait que nous avions eu un résultat important de 45 000 euros.
Par ailleurs, voilà. Oui, on peut préciser également qu'on avait programmé l'année dernière des dépenses au titre de la régie éducative, pensant que l'État allait baisser ses subventions. Oui. Il ne les a pas baissées, du coup, on s'est retrouvé avec un surplus qui explique la baisse d'une année sur l'autre.
Voilà. Mais, pour ces deux raisons.
C'est 20 000 euros en l'occurrence. Oh non, 20 000 euros d'un côté, 9 millions de l'autre, je pense qu'il n'y a pas photo malheureusement.
Voilà, mais le budget reste le même. Le budget de la Caisse des écoles est toujours le même.
Monsieur Richard.
Merci, Monsieur le maire. Moi, deux, trois remarques ou précisions, et notamment une concernant le propos de Jean Boulanger. Et je crois aussi le mot utilisé sur la fracture sociale, hein, quand même pour mémoire, et ça sont des chiffres qui datent hein, déjà, mais les chiffres de l'INSEE, c'est qu'il y a près de 200 familles à Épernay qui sont assujetties à l'impôt sur la fortune. Par contre, en face, à l'inverse, on a quand même 20% de la population qui est sous ou au seuil de pauvreté. C'est-à-dire que là, véritablement, ce sont des chiffres qui illustrent ce qui a été dit par mes collègues. Je trouve dommage, et il me semble peut-être qu'on rate un peu le coche, pour revenir à la présentation du budget et sur la question de l'environnement, c'est qu'on ne fasse pas et qu'on n'engage pas une réflexion, alors par étude ou autre, une réflexion concernant la régulation des poids lourds dans cette ville. Il nous a été dit, hein, lors d'un conseil municipal privé en juillet 2015, c'est un chiffre que j'ai appris sans doute comme beaucoup d'entre nous, qu'il y avait 1200 poids lourds jour qui passaient dans cette ville, avec un ratio qui nous a été donné, mais ça, dont 80% viendraient dans la ville et 20% de transit.
85 et 15 le ratio. Ah,
de transit à peu près. Donc, je suis pas convaincu que la proportion soit bonne. Mais il n'en demeure pas moins, et je l'ai exprimé lors de ce conseil privé, que je crois, puisque c'était sur des prospectives, sur une prospective de développement et de cette ville, je crois qu'on pourrait engager une réflexion pour réfléchir, bon, réflexion pour réfléchir, ça me semble normal, pour quand même aller dans un sens... Parce que, bon, il y a la voiture, le parking, etc. Mais sur le poids lourd, et notamment les véhicules articulés, hein, ça pose problème. Alors, pourquoi je dis et je prends le soin de dire qu'il n'est pas question de grand soir d'interdiction de poids lourd ou quoi que ce soit. Je parle d'engager une réflexion, de dialoguer, y compris avec les industries qui ont besoin que des transports viennent pour leur livrer ou prendre des marchandises. Mais lorsqu'on voit, par exemple, les difficultés qu'il y a c'est rue des Rocherets, lorsqu'on voit en haut, pour tourner, redescendre sur la rue... je ne sais même pas, je pense que j'habite à côté, peu importe.
Chaudruelle ?
Non.
Rue Chantant,
bon, voilà, etc. Avec ces engins, il y a véritablement problème, mais surtout... Ça, c'est un aspect. Surtout, c'est en termes de pollution. Et les épisodes que l'on a connus déjà l'an passé, dès le mois d'avril, l'ATMO là, faisait état d'indices quand même inquiétants. Là encore, il y a 10 jours, puisque je crois que même la presse... Enfin, c'est pas je crois. La presse s'en est fait l'écho. Je pense que là, il n'y a rien dans le budget concernant cette question-là. Et je trouve ça tout à fait dommageable. Pour terminer... sur les remarques. Vous avez confirmé que qu'il y avait un certain nombre de postes qui étaient supprimés ou qui, dans le cadre de la mutualisation, qui étaient transférés à la communauté de communes. Vous prenez grand soin de ne pas toucher quand même au nombre de postes concernant la communication. Et c'est pour ça que la question vous était posée par Jean-Paul Anger. Donc voilà, moi c'est sur cet aspect-là, sur le budget, je trouve dommage qu'on ne s'engage pas sur quelque chose concernant, enfin quelque chose, un travail concernant la régulation, la limitation, voire dans une certaine mesure, en concertation avec tous les intéressés. Hein. C'est pas une mesure unilatérale, c'est pas comme vous nous présentez le budget, personne n'a discuté quoi que ce soit. Moi, je propose qu'il y ait un dialogue. Voilà. Merci.
Jonathan Rodriguez.
Merci, monsieur le maire. Ben, finalement, peut-être qu'ils vont finir par voter le budget parce qu'il y a des mesures qui vont dans ce sens-là. Mais je suis un peu surpris, mais je suis à moitié étonné quand même de votre réflexion parce que je crois vraiment en votre sincérité, mais je doute de votre objectivité. Vous avez tous les deux, mais trois, avec Hélène Perrin, signé début janvier une tribune dans le magazine municipal disant que Ville Respirable, c'était un conte. Bien loin de la réalité. Or, vous ne connaissez rien de ce dossier, puisqu'il n'est pas encore signé avec l'État. Donc, vous ne pouvez pas savoir ce qu'il y a dedans, mais vous avez quand même critiqué qu'il n'était pas bon. Pourquoi pas ? pour aller dans ce sens de, d'une, c'est pour aller dans ce sens, je vais finir après, pour aller dans le sens de la limitation de la circulation, on a, et le maire l'a dit dans son exposé de début, qu'il y avait une étude pour la modélisation de la qualité de l'air. On aura, ça coûte 17 000 euros, c'est Atmo qui va le faire, Ratmo qui était présidé par, par Raymond Joannès, qui n'est pas, je crois, de notre bord politique, et peu importe d'ailleurs, qui fera cette étude, cette association-là, indépendante d'ailleurs, fera l'étude avec très précisément des capteurs de toute la ville pour la première année diagnostiquer les pollutions, savoir où elles sont localisées, quel type de pollution c'est, et d'où et on peut analyser avec le type de pollution qu'on constate d'où vient cette, cette pollution, si c'est de l'industrie, si c'est l'agriculture, ou si c'est du chauffage, ou si encore c'est la mobilité. Donc à partir de là, on aura une analyse fine, rue par rue, de notre ville, et on pourra identifier les points noirs et où on peut agir efficacement sans évidemment interdire la circulation des poids lourds ou des véhicules, comme Jean-Paul Langer voudrait le faire, interdire les véhicules en ville. C'est pas notre politique. Mais ça, on le fera. Donc c'est dans le budget, c'est dans le cadre de Villes Respirables. Et il y a d'autres actions, évidemment, qui sont liées, qui seront sur les 5 ans. Et il y a une réflexion à mener là-dessus. Dans ce projet de Villes Respirables, il y a aussi la préfiguration, en tout cas la réflexion d'une zone de circulation restreinte aux véhicules les plus polluants. Donc ça, c'est encore c'est en réflexion, mais c'est aussi dans notre projet de réfléchir à ça, parce que le but, c'est de garder une attractivité pour notre ville, qu'elle soit pour la mobilité, parce que, on le disait tout à l'heure, il n'y a pas de bus entre Ailly et Épernay, certains viennent en voiture, et il faut, et Jacques dira mieux que moi, que le commerce profite de ce flux de population, mais après, il faut que ce soit le plus propre possible, évidemment, il faut, une fois que le véhicule est arrivé en ville, s'il est propre, c'est mieux, et s'il ne peut pas bouger une fois qu'il est en ville, c'est encore mieux.
Merci. Je pense qu'on a tous eu l'occasion de s'exprimer sur ce budget. Donc je vais vous inviter à voter le budget primitif tel qu'il vous a été présenté. Donc c'est, il s'agit bien du vote des délibérations 2A, 1, 2, 3, 4, 5 et 6, hein, les budgets, le budget principal et ses budgets annexes. Vous êtes d'accord pour tout voter en même temps ? Ça ne pose pas de difficulté ? Oui, monsieur.
Écoutez, Richard. Je ne veux pas m'opposer au vote conjoint, là, mais sur le chauffage, je ne partage pas les explications, en tout cas celles que vous avez apportées tout à l'heure, ne peuvent pas nous convaincre, parce que quand même, lorsqu'on compare les chiffres, les augmentations, et même si là, et par nécessité de comparer entre les comptes administratifs et le budget primitif, on voit bien quand même qu'il y a une augmentation sensible, une surchauffe, si je puis me permettre, du coût du chauffage. Et la question qu'on peut poser, c'est est-ce que l'avenant que vous avez signé avec Dalkia, voilà, je savais bien que d'autres avaient déjà lu dans mon propos... Voilà. Non, mais parce que l'avenant que vous avez signé avec Dalkia ne vous permet pas, ne nous permet pas, hein, c'est la collectivité, justement de contrôler les prix et notamment les coûts de stockage. Et c'était là, d'ailleurs, la faiblesse de cet avenant.
Je vous répondrai
voilà,
sur...
J'en termine en disant que si il s'avérait que ces augmentations, parce qu'il y en a quand même de l'augmentation, hein, si ces augmentations, elles s'appliquent également à ceux qui bénéficient du système de chauffage urbain, donc produit par, enfin en tout cas, chauffage produit par Dalkia, ça va faire mal aussi là dans les foyers, pour ceux qui y sont assujettis.
Je vous répondrai précisément sur ce point par écrit. Merci. Et je donnerai communication de votre lettre. Je vous propose donc de voter ces rapports de A, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Avis contraire ? 3, 4, abstention, 3. Donc je vous remercie pour le vote de ce budget. Nous passons au rapport 2B. Christine Mazzi.
Merci, Monsieur le Maire. Donc il s'agit d'attribution de subventions de fonctionnement aux associations et organismes pour l'exercice 2016. Je vous propose donc d'adopter les attributions de subventions aux associations suivant les différentes annexes qui vous ont été adressées. Donc je vous rappelle qu'il y a dans cette annexe les subventions de fonctionnement, les subventions d'action et les subventions d'équipement.
Merci. Y a-t-il des questions ? Monsieur Lefebvre.
Oui, quatre points. Le premier, je l'ai déjà dit, pour les associations à 100 euros, ils donnent des, qui sont subventionnés à ce niveau. 75 euros sont demandés pour l'utilisation de la salle, 40 euros pour l'office des sports et éventuellement du champagne en cas de fête des sports. Donc on leur donne, en fin de compte, on leur reprend plus que ce que l'on leur donne. Deuxième chose, question de TCB. Donc, une subvention, deux subventions en retrait de 3500 euros. Mais ça me permet de vous dire, de vous demander, poser la question la semaine, il y a une huitaine de jours, une dizaine de jours au dernier conseil. Et vous nous aviez promis de nous tenir au courant sur ces animations qui ont été, semble-t-il, confiées à une association rémoise. Troisième chose, donc, certaines associations s'en tirent bien, ont des augmentations. L'Office de tourisme, vous l'avez dit, 15 000 euros. Par contre, il y en a d'autres qui sont moins bien lotis et cela va faire plaisir à certains conseillers municipaux ici. Le club de prévention qui a une diminution, ainsi que le Salmanazar. Et puis, dernière chose, certaines associations ont été subventionnées en 2015. Elles n'apparaissent plus là. Comment se fait-il? Est-ce qu'elles n'ont pas demandé ou est-ce qu'elles ne sont plus subventionnées?
En l'occurrence, c'est des associations qui n'ont pas déposé de dossier.
Ah oui, donc, d'accord. Il n'y a pas eu de refus.
Il n'y a eu aucun refus et on a dans les subventions non affectées, on a pris en compte, mais elles ne sont pas inscrites.
Sur la question de TCB qu'on a évoquée l'autre jour, effectivement, nous sommes renseignés sur ce projet. L'idée, c'était d'accompagner la fin de l'opération de renouvellement urbain par des interventions à caractère artistique. Pluriel Novilia a proposé que nous ayons recours au collectif d'artistes Bronca qui est basé à Reims. Nous avons de notre côté donné un accord de principe à condition que les compétences mobilisées soient complémentaires de celles qui existent à Épernay et qu'un travail soit bien fait avec le tissu associatif local. En l'occurrence, on a refusé au niveau de la ville que des ateliers vidéo soient confiés au collectif Bronca, alors même que le savoir-faire existe à Épernay et que, en l'occurrence, un travail a été confié à TCB depuis plusieurs années. Il se terminera en 2016. Et donc, pour nous, c'est redondant que de faire des ateliers vidéo réalisés par des artistes ou des intervenants rémois. Par rapport à ce que fait TCB, où on se contente, ce que nous pensons, nous, des interventions de TCB qui ont toujours été d'excellente qualité sur cette question. Donc s'il y a des ateliers vidéo, nous, on demande à ce que ce soit les ateliers vidéo pour lesquels nous avons des contrats avec TCB qui soient intégrés dans le programme de Bronca et pas le programme de Bronca qui intégrerait un autre intervenant vidéo que TCB en la matière. Donc, c'est une question sur laquelle on sera amené à revenir, à vous donner des précisions, évidemment. Pour le reste, il y a effectivement des interventions d'autres artistes que nous n'avons pas forcément localement, sur de la magie, sur des créations graphiques pour lesquelles il faut peut-être aller chercher les compétences à l'extérieur. Mais quand les compétences existent à Épernay, il n'y a aucune raison d'aller les chercher à l'extérieur, d'autant plus que ces intervenants ont démontré leur savoir-faire depuis bon nombre d'années. Oui, monsieur Angers.
Oui, deux questions. L'une concernant les subventions supérieures à 23 000 euros là, pour le sport, notamment, où on voit l'arrivée d'aventures découvertes roller et puis la montée de RCE athlétisme. Ça correspond à une montée en puissance de leur activité.
Deux réponses. Concernant la déroleur, effectivement, oui. Monter en élite 1, c'est-à-dire en élite, en championnat élite, d'accord. C'est-à-dire première division, donc forcément des frais supplémentaires d'arbitrage, de déplacement, etc. Donc c'est pour ça qu'eux, ils ont une augmentation. Tu as dit le deuxième
RCE athlétisme,
oui. C'est-à-dire qu'RCE athlétisme avait... Il n'y a pas d'augmentation pour l'athlète, ouais. Il y a même un petit peu moins, je crois. Il y a même une petite baisse, d'accord. Pour l'athlète. Sachant qu'il y avait... en présentation, en action et en fonctionnement. Et là, j'ai regroupé ensemble, d'accord, action et fonctionnement.
D'accord. Autre chose, il y avait l'an passé quelques... dans le cadre du contrat de ville, du soutien à des chantiers d'insertion oxygène, et puis au travers de la mission locale, un soutien à la location de cyclomoteurs ou la fourniture de cyclomoteurs. Du moins, c'est des actions qui sont arrivées à échéance ou...
Non, mais c'est des actions qui seront programmées dans le cadre de la programmation contrat de ville qui vient après. Oui. C'est-à-dire qu'elle est... voilà, on a toujours un décalage. Hein. Et donc, lors d'un prochain conseil municipal, vous verrez apparaître la programmation du contrat de ville dans laquelle vous retrouverez vraisemblablement ces actions. Sur ce rapport, pas d'autres questions ? Abstention, le rapport, 3 abstentions, le rapport est adopté. Nous poursuivons avec le rapport suivant, rapport 2C, Christine Mazzi.
Merci. Donc la fourrière automobile a été confiée à la SRL Pontalier par une convention qui doit arriver à échéance le 30 juin prochain. Afin de procéder à son renouvellement, il est nécessaire, conformément aux dispositions de l'article L1411-4 du Code général des collectivités territoriales, de se prononcer sur le principe d'une gestion déléguée sous la forme d'une délégation de service public. Je vous invite donc à vous prononcer sur ce principe et d'autoriser le maire à engager la procédure de consultation pour désigner l'exploitant.
Alors c'est évidemment une délibération ancienne qui est renouvelée à chaque fois. Il n'y a toujours qu'un candidat. Évidemment, le garage Pontalier fait tout à fait correctement le travail. Pas d'opposition, pas d'abstention. Le rapport est adopté. Rapport 2D, Christine Mazzi.
Cette délibération concerne le chalet de l'Arcanière et les rapports annuels 2013 et 2014 concernant une convention d'affermage. Je vous invite à prendre acte des rapports annuels 2013 et 2014 établis par l'association Les Amis du chalet de l'Arcanière, délégataire de la gestion du chalet.
Des questions ? Pas de questions ? Oui.
Oui, je voudrais savoir connaître le montant de la cotisation DSP, parce que si vous prenez la page 12, il est noté qu'en 2013, c'était 8574,12, et vous prenez la page 25, vous notez que 2013, c'est 8066,12. Donc, deux chiffres contraires pour la même date. Pour la même année, pardon.
Je suis incapable de vous donner la différence. Je vous donnerai les explications, mais je n'avoue que je ne l'ai pas.
Les chiffres ne sont pas paginés, mais donc c'est la 12 et la 25.
Puisque bon, on vous donnera les explications, mais j'avoue que je ne l'ai pas.
Dans un bilan, c'est l'année réelle, et dans l'autre bilan, c'est l'année précédente. Donc deux chiffres différents pour la même année.
Je ne suis pas en mesure de vous donner cette précision, je vous la donnerai par courrier.
Oui.
Monsieur Richard.
Oui, juste pour faire remarquer deux choses. Mon voisin de droite, excusez-moi. Je voulais simplement dire, et on l'a observé en commission, qu'il y avait quand même un certain nombre d'incohérences dans les chiffres qui sont donnés une page et deux pages après, etc. Notamment pour les nuitées, etc. La commission souhaite qu'effectivement l'association puisse apporter des précisions pour faciliter la lecture de leur bilan. Et la deuxième chose, c'est que j'avais demander ces bilans, puisqu'on en a parlé dans un conseil où j'étais en décembre. On nous avait dit qu'on avait fait avec étonnement « Ah, vous ne les avez pas ?» et je ne les ai pas eus depuis. Hein. Il a fallu la commission pour que ces choses me soient communiquées. Voilà, c'est
tout. De quel chiffre vous parlez, là ?
Je parle des bilans de l'Arcanière, puisque 2013-2014, on les attendait depuis... Voilà. Maintenant, D'accord. C'est fait.
Et l'association fait... part d'une réflexion commune avec la ville, donc sous quelle forme est cette réflexion actuellement? Et puis, page 22, on a une conclusion du président qui dit « La sortie de la DSP permettra une réelle amélioration des finances ». Il n'y a pas de sortie de la DSP.
Si, la DSP s'est arrêtée en juin l'année dernière.
Oui, mais on n'a pas refait une nouvelle, non?
Non, on n'est pas reparti sur une DSP, donc effectivement, ce sera des charges en moins pour l'association. Mais sur ce point, on refera, si vous le voulez, le point avec Annie Loyaux. Elle aurait dû être là ce soir, mais elle est effectivement souffrante et on pourra revenir avec elle et elle pourra nous indiquer, puisque c'est elle qui a les contacts les plus fréquents avec le président de l'association, qui pourra vous faire le point sur les liens entre la ville et cette association.
Je peux redire quelque chose à Marc. Oui. Marc, je vais revenir sur les subventions. Quand tu dis qu'on donne 100 euros, donc que ça leur coûte, tu vas demander l'avis du billard club qui est réinstallé dans une installation toute neuve. Mmh. Je suis allé à leur assemblée générale samedi dernier. Ils sont ravis. Ils sont ravis. Donc, il y a une mise à disposition des installations qui est largement supérieure, bien sûr, aux 100 euros qui sont effectivement symboliques, je te l'accorde.
Bien, mes chers collègues, l'ordre du jour est épuisé. Prochaine réunion le 21 mars pour le vote des taux, notamment, et on sera au printemps, effectivement. C'est... Comment ? Combien ils ont fait finalement ? Ils ont gagné ? Gagné ? J'en connais quelques-uns qui doivent pousser un ouf de soulagement. Bonne soirée.